Alors, on va commencer Bezrat Hashem, notre troisième cours sur la lettre numéro 19. On est à la page 255 et on va dédier ce cours pour la Refua Shelema de Monsieur Cohen. D'accord ?
J'ai pas une nouvelle.
Refua Shelema de Monsieur Cohen, Chaitian, Menturkia à Cohen.
Il est retourné à l'hôpital.
J'ai entendu, ouais.
Samedi soir, ouais.
D'accord, bon, c'est l'hiver, c'est toujours compliqué l'hiver.
Ça, ils vont pas le garder, quoi.
Je rappelle rapidement le thème.
Il est tombé.
D'accord. Je rappelle rapidement le thème de notre cours. Donc on est déjà dans le troisième cours sur la lettre numéro 19. Le thème de notre cours, c'était que apparemment, Rabbi Chaim Vital, qui était l'élève du Arizal, avait témoigné que le Arizal a compris certaines choses que Moshe Rabbeinu, d'accord, n'a pas compris.
Non,
c'était le thème.
Il avait vu des choses.
Alors voilà.
Non, il avait vu des choses.
Il a vu des choses, il a compris des choses, c'est les termes qu'il a dit. Donc c'est ce qu'on avait étudié il y a deux semaines, qu'apparemment, le Arizal aurait compris des choses que Moshe Rabbeinu n'a pas compris. Donc on a dit tout de suite, on a dit, mais c'est impossible de dire des choses comme ça. Comment on peut dire des choses comme ça? Que le Arizal, qui est un maître qui est arrivé près de 1500 ans, 2000 ans après Moshe Rabbeinu, comment on peut dire que quelqu'un est plus grand que Moïse? Moïse, c'est intouchable, personne ne touche à Moïse. D'accord? C'est la Torah qui dit. La Torah dit qu'il n'y a jamais eu un prophète comme Moïse, il n'y a jamais eu quelqu'un du niveau de Moshe Rabbeinu. Comment on peut dire des choses comme ça? Alors qu'est-ce qu'on a expliqué il y a deux semaines? On a expliqué qu'en vérité, il y a une différence entre voir et comprendre. C'est une chose très très importante qu'on a expliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, c'est quoi sa force? C'est que Moshe Rabbeinu, il détient beaucoup d'informations. Il voit beaucoup de choses. Mais est-ce que parce que je vois quelque chose, ça veut dire que je l'ai compris? Non. Voilà, j'ai des lettres devant moi ici. D'accord? On voit toutes les lettres devant moi. Est-ce que ça veut dire que j'ai compris tout ce qui est ici? Voilà, t'as des lettres devant toi ici. Est-ce que t'as compris tout ce qui est écrit ici? Non. Pourtant, elles sont devant toi.
Ouais.
D'accord? D'un autre côté, on peut avoir des gens qui n'arrivent pas à voir les lettres physiques, mais concrètement, ils vont comprendre.
Comme la montre.
C'est comme, exactement.
Tu vois l'heure, mais tu sais pas.
Donc, on a expliqué, je veux pas revenir sur tous les détails parce qu'on avait fait un cours que sur ça. On avait expliqué longuement que ça, c'est la différence fondamentale qu'il y a entre le Arizal et Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu fait partie de ceux qu'on catégorise comme des navis, comme des prophètes. C'est quoi un prophète? Un prophète, c'est pas quelqu'un qui comprend l'information. C'est quelqu'un qui détient l'information. Il détient une information sans forcément la comprendre. C'est pas son rôle, la comprendre. C'est pas son rôle de décrypter l'information. Il laisse ça pour d'autres personnes. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, c'est comme s'il voit une grande image satellite, mais il est pas capable de l'analyser, de dire, ah, il y a un problème ici. D'accord? Il a une image satellite, après il faut l'analyser. La force des gens comme le Arizal, et des maîtres comme on a eu les maîtres de la Gemara, que même Moshe Rabbeinu en personne, quand Dieu l'a projeté, on avait raconté, il lui a montré ce qui allait se passer plus tard, rappelez-vous qu'est-ce qu'on avait dit? Il était perdu. Pourquoi il était perdu?
Il a même dit pourquoi tu donnes pas la Torah.
Exactement. Ouais. Pourquoi il était perdu, rappelez-vous? Parce que Moshe Rabbeinu, son rôle, c'est pas de décrypter l'information. Son rôle, c'est de détenir et de recevoir l'information. D'accord? Il reçoit la Torah, il nous la transmet. Après, qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on va la comprendre? Il va avoir des sages après. Et chaque génération, couche après couche, étape après étape, morceau après morceau, chaque génération, il y aura des sages qui vont décrypter ce que même Moïse n'avait pas réussi à décrypter. Parce que chacun est dans son rôle. Donc, pour résumer en deux mots, on avait le Chacham et on avait le Navi. Très très important à comprendre aussi pour aujourd'hui, pour comprendre la différence entre Tzadikim, les Géonim, les Rabbins, Il y a deux catégories qui n'ont rien à voir. Il y a le Chacham et il y a le Navi. Voilà, David, on t'attend. Qu'est-ce que vous amène?
Et l'Admour? Et l'Admour, c'est quoi?
L'Admour, ça rentre plus dans la catégorie du Navi.
Navi,
alors vous, on peut pas compter sans vous, hein. Je sais pas comment tu le sens, celui-là.
Alors, monsieur, pour le bizutage. Le bizutage de monsieur Trigalo, c'est...
Attends, mais ça, c'est du lourd, c'est de la tonara.
Attends.
Je sais pas comment tu le coupes, celui-là, j'ai pas ouvert.
C'est du son, l'autre, c'est-à-dire que vous pouvez vous évanouir, hein. C'est de la drogue, hein.
On va célébrer.
Ça, c'est de la drogue, ça, ce bout-là, ici, là. Tonara.
C'est du pur.
Tonara.
Faut un spécialiste pour ça.
David, il faut que tu nous sors de Chaïm parce qu'on a quelqu'un qui revient chez le rabbi.
T'as intérêt de nous ramener un chidouche, hein.
Non.
Comment ça? Non, t'es oublié. La coutume cravate.
Voilà.
Tends-moi votre coca, David, je t'en prie.
Oui. Tout de suite.
Allez, on dit. Ok. Qu'il y a le Chacham et il y a le Navi. C'est toi qui as posé la question sur l'Admour.
Oui.
D'accord. Quand on dit par exemple qu'on va chez un Admour, chez un Rabbi, d'après toi, c'est quelle catégorie? On va voir un sage ou on va voir un prophète?
C'est d'un prophète.
Si on va voir le rabbi, on va voir les deux.
Est-ce qu'on va voir le rabbi pour lui poser une question en Torah? Ou est-ce qu'on va voir le rabbi pour être inspiré?
Ça peut être les deux.
Ça peut être les deux, c'est vrai, il a raison. Très bonne réponse. Excellente réponse.
Ouais, bah, on va le prendre deux.
Mais normalement, quel est le poste d'un rabbi? Si je veux voir un Rosh Yeshiva, d'accord, je vais aller à la Yeshiva de Brunois pour aller parler avec le Rosh Yeshiva. J'y vais pourquoi?
C'est pour apprendre.
C'est pour comprendre. C'est-à-dire que si je vais être là et il va me faire un cours et je vais rien comprendre, et qu'il va me balancer des informations et que j'ai rien compris, je lui dis écoute, c'est bien gentil, mais. Enfin, vous êtes bien gentil, mais moi je suis venu, vous n'êtes pas un prophète, vous êtes un chacham, donc moi je veux comprendre ce que vous racontez. Par contre, quand tu vas voir un tzaddik, t'as rien compris à ce qu'il a raconté. Il t'a dit des bracha pendant 10 minutes, t'as rien compris à ce qu'il t'a raconté. Tu sens que t'as perdu ton temps?
Non.
Pourquoi? Parce que t'es pas venu pour comprendre.
Merci.
T'es venu pour recevoir.
L'autre moitié.
On voit la différence?
Petit morceau,
donc chacham et navi.
T'es venu avec l'espoir de recevoir.
Oui. Ça veut dire t'es pas venu pour comprendre.
Oui,
mais t'es venu pour détenir quelque chose. Exactement. De te dire, j'espère que je vais recevoir une bracha. Maintenant, des fois, un tzaddik qui te dit quelque chose, ça arrive très souvent, ça.
Faut boire avant,
c'est de l'âne, quoi.
Vraiment, c'est de l'âne.
Il nous a amené du.
C'est du cheval.
Du pur, il nous a amené.
C'est quoi ça?
Elle a pas séché, elle a pas séché, dommage.
C'est du.
Exactement.
Les œufs de thon.
Ça, c'est les œufs de thon?
Elle a pas séché.
C'est les... encore plus salé que le.
Ouais. Non, mais ça, c'est très salé, ça, c'est.
Ça arrache, celui-là.
Bon.
Après le cours,
je tenterai.
Non, ne tente pas.
Ah, d'accord. Donc, j'étais en train d'expliquer. D'accord. Les Chaim. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Shehakol Nihya Bidvaro.
Amen. On a déjà fait Shehakol.
Marcel, qu'est-ce que je te sers?
J'avais pas la caméra.
Justement, on ne sait pas si tu
avais l'addition. Si, j'avais. Je savais pas qu'il y avait ça.
Quoi?
Donc, j'étais en train de dire, quand tu vas voir un tzaddik, qu'est-ce qui arrive? D'accord? Combien de fois on a eu des histoires avec le rabbi, que des fois, hein, des gens ils viennent demander une bracha, et le rabbi leur sort quelque chose, que eux ils croient que c'est pas une bracha. Par exemple, d'accord? Le rabbi il lui dit, va voir telle personne. Maintenant pour lui c'est pas une bracha, lui il voulait entendre une bracha. Et en vérité, quand on va prendre du recul de plusieurs années, c'est là qu'on va réaliser qu'en vérité c'était une bracha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, des fois, un rabbi lui-même, il est pas au courant de l'information. Je vais vous raconter une histoire pour illustrer ça, le temps qu'on mange un petit peu, là. Vous savez que, une fois, le rabbi recevait beaucoup les gens en Yichidout. Notre rabbi recevait beaucoup les gens en Yichidout, ça veut dire en entrevue privée pendant la nuit. Ça commençait le soir à 20h, et en général, ça durait jusqu'à 4-5 heures du matin.
Il dormait très peu, alors.
Donc très très peu. C'était 3 à 4 nuits par semaine, comme ça. À part le Shabbat, le vendredi soir, où le vendredi soir, une des conditions de mariage avec sa femme, c'était que le vendredi soir, il ne peut pas aller dormir, il doit étudier la Torah.
On a oublié de mettre ces conditions, nous.
Incroyable. D'accord. Bon, ça, bien sûr, c'est pas des gens de notre calibre. Et donc, une des personnes qui était venue au Yichidou chez le Ravi, écoutez bien l'histoire, c'était Ariel Sharon. Kadosh Baruch Hu lui accorde une fois Shlema. Et donc, Ariel Sharon, il était venu. C'est une histoire qui se passe, je crois, en 77-78. C'était dans le moment dans lequel c'était chaud en Israël. Je sais pas si vous vous rappelez, enfin, moi j'étais pas né encore, mais il y avait apparemment des groupements qui, je crois, que s'appelaient Septembre Noir, qui prenaient des avions en captivité. Donc c'était très chaud, c'était dangereux, c'était vraiment dangereux. Et voilà, d'accord. Alors, il y a un détail important que je vous ai pas raconté. Qu'est-ce qui se passe? Donc Ariel Sharon rentre chez le rabbi. Il est rentré chez le rabbi, apparemment il devait être 1h du matin, donc l'entrevue devait durer quelques minutes, et le rabbi il le garde, il se met à discuter avec lui. Et lui il est crevé, il a l'avion le lendemain matin, en début d'après-midi. Et le rabbi il le garde, il se met à parler avec lui, il se met à parler de tout sur lui, il n'ose pas, c'est le rabbi. Et il se met à parler des heures, lui il n'ose pas, 5h du matin, 4h à la durée, il n'en peut plus, d'accord? Il n'en peut plus, non. Et le rabbi, il finit la conversation, il dit bon, ben, bon voyage et que tout se passe bien.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir. Le lendemain, il rentre à l'hôtel, il est esquinté. Il s'endort. Et quand il se réveille, il dit à ses secrétaires, il lui dit, écoutez, vous arrangez, vous prenez un autre vol, j'ai pas la force d'aller maintenant en Israël, c'est long le voyage qu'en Israël. Alors, il annule le vol. D'accord? Enfin, il annule le vol. Il reporte son vol. Qu'est-ce qui s'avère? D'accord? Ce vol avait été un vol qui avait été détourné. D'accord? C'est un vol qui devait aller en Israël, enfin qui devait aller en France et de là-bas qui devait aller en Israël. Ce vol a été détourné. Il a atterri en Algérie.
Super.
D'accord? Il a atterri en Algérie. Et en vérité, quand ils sont rentrés les terroristes pour chercher dans l'avion, on a vu qu'ils cherchaient dans la liste. Et qu'est-ce qu'ils cherchaient, bien sûr? Cherchaient Sharon. Donc c'est clair qu'il a été sauvé. Alors attendez, une fois, hein.
Mais il était déjà...
Donc ça a fait un buzz terrible, parce que lui aussi, Sharon, il en a parlé, il a dit, il a sauvé la vie, etc.
Général,
c'était pas clair. Ouais. Ça a fait un buzz, c'était pas longtemps après la guerre de Kippour. Et donc ça a fait un buzz terrible. Alors, une fois, hein, quelques semaines plus tard, il y a eu une autre personne, j'ai oublié qui c'était, mais quelqu'un d'important, qui était lui aussi un Yéridout chez le Rabbi, il a dit, vous savez, les gens, ils parlent beaucoup de ce miracle. Il parle beaucoup de ce miracle que vous avez fait, mais moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous saviez que l'avion allait être, comment ils disent, détourné? Est-ce que vous saviez? Si vous saviez, pourquoi vous ne l'avez pas dit? Vous savez ce qu'a répondu le Rabbi? Le Rabbi a répondu, il a dit, je vous dis la vérité, je ne savais pas que l'avion allait détourner. Mais du ciel, j'ai eu une information, on m'a dit, il faut retenir Sharon au maximum. Donc c'est ce que j'ai fait. Rapport à ta question?
Je ne savais pas pourquoi.
C'est-à-dire que des fois, un Rabbi lui-même, il ne sait pas pourquoi. C'est pas son poste. Maintenant, on lui donne l'information, on lui dit, tu prends Sharon, tu le gardes 4 heures. Ni toi, tu sais pourquoi, ni lui, il sait pourquoi. Il va rater son avion et ça va être pour son bien. Des fois, c'est seulement après, des années après qu'on comprend. Donc, Racham et Navi. Ça, c'était le cours d'il y a 2 semaines. La semaine dernière, de quoi on a parlé? Quand vous voulez suivre un... On n'a pas beaucoup, un peu.
Ça va.
On va racheter des livres dans ta chaîne, David. Hein. Prochain.
Il n'avait plus ça, non?
Je sais pas.
Ouais, je me souviens exact.
Il n'a pas disparu. Hein. Ah, il y a un grand livre aussi, attendez.
Il est
là, voilà, c'est bon.
On suit à 3.
Qu'est-ce qu'on a expliqué la semaine dernière? D'accord. La semaine dernière, le thème... Qui se rappelle du thème de la semaine dernière? Le thème de la semaine dernière, c'était est-ce qu'on peut comprendre le sens des mitzvot? D'accord. Alors, qu'est-ce que tu te rappelles, Michael, la semaine dernière?
Wallo, Cloum.
Wallo. On a tous compris Wallo.
C'est pour ça. On va repasser une couche. Je t'inquiète pas.
On va repasser une couche. Mais comment ça a sonné qu'on voit si on a mordu une
couche? Alors, vas-y. Rappelle-nous de quoi on a parlé la semaine dernière.
Il y en a qu'on comprend. Il y en a qu'on comprend.
Ah, mais bien, écoutez ce qu'il y a.
Il y en a qu'on croit comprendre.
Oui.
Et donc, on doit les faire sans les comprendre.
D'accord. Et les mitzvot qu'on croit comprendre. Par exemple, je te donne un exemple. Pourquoi tu manges cachère?
On ne comprend pas in fine. Qu'est-ce que ça veut dire?
Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu manges cachère?
Je n'ai pas là, c'est à jeu. Non. On devrait expliquer.
Non. Il n'y a pas de mitzvot sur les... Pourquoi tu fais Shabbat?
Je veux goûter ça.
Parce que
Galou nous a ramené une espèce...
Ça, c'est la raison.
Voilà.
Donc ça, c'est la raison qui est logique pour toi. Est-ce que c'est une raison qui est logique?
C'est logique.
On croit en Dieu, oui.
On ne comprend pas le sens profond de la mitzvah. Le sens définitif.
On a repris un exemple. Je veux qu'on reprenne cet exemple concret, parce que j'ai vu la semaine dernière, quand on a fini, qu'il fallait repasser encore une couche. Ouais. On va prendre un exemple concret. D'accord? Un exemple concret. On fait la mitzvah du Shabbat. Pourquoi on fait le Shabbat? Vous avez tous dit, parce que Dieu s'est reposé il a travaillé 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. D'accord? Donc c'est pour ça que nous on fait Shabbat. Ça explique le sens général de la mitzvah. Mais quand tu commences à gratter, quand tu rentres dans les détails, est-ce que ça explique le fait que Shabbat, j'ai pas le droit de prendre la voiture pour aller à la synagogue?
Pas du tout.
Non?
Pas,
d'accord.
Pas ouvrir la porte.
Est-ce que ça explique que Shabbat, d'accord, exactement, je dois attendre en bas de chez moi à la porte? Je dois rester comme un chmar pendant une demi-heure et que les voisins regardent. D'accord.
Non,
il
est à la porte, moi.
C'est ça, on comprend pas le sens ultime.
Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire qu'on comprend pas du tout.
Oui, d'accord. Le sens ultime.
Donc ça veut dire qu'on comprend la raison. D'accord, mais comme il expliquait la semaine dernière, la définition kabbaliste qu'il a donnée la semaine dernière, il a dit, ce qu'on comprend, c'est seulement l'aspect extérieur. Mais l'aspect profond, l'aspect intérieur, on ne le comprend pas. Et ça, on le comprendra seulement quand Mashiach va venir. D'accord? Et encore, pas pour tout. Ouais? Pas pour tout aussi, il n'y a pas de garantie. Mais c'est pas grave. Au moins, on sait. Au moins, on sait que, bon, on le fait pas forcément pour la raison.
Parce que Shlomo HaMelech, il a tout compris sauf une seule chose.
Non.
Il faut apprendre à dépasser la raison. Je donne un exemple. Quand tu donnes un cadeau à ton père, d'accord? En bonne santé, si tu veux. D'accord? Tu te poses la question, pourquoi je donne un cadeau à mon père?
Non.
Pourquoi tu donnes un cadeau? Parce que c'est comme ça. Si maintenant ton fils dit, papa, pourquoi tu donnes un cadeau à papy? Qu'est-ce que tu vas lui répondre?
Là, je vais expliquer pourquoi.
Et pourquoi ça te fait plaisir?
C'est une voiture. C'est un cadeau.
Il y a des choses qu'on vit, mais qu'on peut pas forcément expliquer. Tu comprends? Tout ce qu'elle a fait pour toi, alors il va te dire, alors pourquoi tu l'offres ça et pas ça, et pourquoi tu l'offres pas plus, pourquoi tu l'offres pas moins. Ça s'explique pas, il y a des choses qu'on n'explique pas. C'est comme ça et c'est tout. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que ça, c'était le thème du cours la semaine dernière. Toi, t'étais chez le Rabbi, t'étais en live là-bas. Le thème du cours la semaine dernière, c'était qu'il faut apprendre à dépasser le plus vite possible la notion de je fais parce que. D'accord? Je fais ça parce qu'il y a cette raison. Non.
Pourquoi parce que?
Pourquoi parce que? Il n'y a pas pourquoi parce que. Ça, c'est les enfants. Voilà, mon fils, pendant il a 2 ans et demi. Toute la journée, pourquoi papa? Pourquoi? 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 Est-ce que? Voilà, c'est le nouveau mot. Est-ce que? Des fois, il me dit que le mot est-ce que. Je dis est-ce que quoi? Est-ce que? Bon. Est-ce qu'il a pris un nouveau mot? Ça lui a plu. Non, mais c'est vrai. Un petit dernier à la Khaïm. Des fois, très souvent dans la journée, il dit papa, est-ce que? Est-ce que quoi? Je sais pas.
Oui, c'est
un scoop, ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on pose, quand on démarre, on veut poser des questions. Ce qu'on avait pris la semaine dernière, c'est qu'il faut apprendre le plus tôt possible à faire, mais ne plus faire pour avoir des réponses, mais faire parce qu'il faut faire. D'accord? Alors. Ce qui va dire ici, maintenant aujourd'hui on va expliquer des, ça j'ai pas voulu le faire la semaine dernière, on va dire aujourd'hui des mots très très durs, parce que c'est la Gemara, hein, il n'invente rien du tout ici, la Gemara Zaken, des mots très très durs que la Gemara dit sur une personne qui fait un judaïsme qui est uniquement logique. Vous savez, il y a des gens cartésiens comme ça, des gens carrés, cartésiens, il va t'expliquer pourquoi il se lève à telle heure, pourquoi il va dormir à telle heure, pourquoi il a fait ci maintenant, pourquoi il a fait ça après, cartésien, comme le blond, d'accord? Voilà. Et, non, mais c'est vrai, c'est des gens comme ça, quand tu lui dis, bon, écoute.
Le blond, il est juif, non?
Alors, bah oui, il est bien sûr qu'il est juif. Alors, quand tu, il y a des blancs juifs. Alors. Alors, attends, j'ai expliqué. Quand tu lui dis, Rabbi, c'est pourri. Faut te lâcher. Tiens, tout est carré. C'est-à-dire, même l'alcool qu'il doit dépasser, il a prévu combien il doit boire.
Ouais, c'était pour lui.
Alors, je vous fais une caricature, là. Mais en vérité, tous, quelque part, on peut avoir des fois des côtés un peu comme ça. Des côtés que je fais parce que. Donc, j'ai prévu, je vais faire comme ça. Ce qui va expliquer ici, c'est que la Gemara dit des mots très très durs sur ça. Qu'on va développer aujourd'hui. Et qu'il faut essayer le plus vite possible de quitter ça. D'accord? Et de faire les mitzvot parce qu'il faut les faire et c'est tout. Sans chercher de raison. D'accord? Sans toujours devoir expliquer. Bien sûr, il y a des raisons pour tout. Je suis pas en train de dire que les raisons sont fausses. Je dis simplement que il faut chercher à quitter le plus vite possible les raisons. Encore plus grave que ça, ça on va développer aussi aujourd'hui, c'est les gens qui étudient sans que l'étude mène à l'action. Ça c'est très grave. D'accord. Non. On accepte le fait que quand on démarre.
L'étudier, c'est déjà une action.
Parce que là, c'est le pire. Tu comprends? Déjà, normalement, tu dois faire l'action pour l'action, sans chercher la raison. Lui, non seulement qu'il cherche la raison, mais il a pris que la raison sans l'action.
J'ai compris.
Alors regardez ce que la Gemara va dire. La Gemara va dire des mots très durs sur ça. Il dit, alors on va prendre A. Kema Amar, Ayom la Sotam. Alors, on va prendre Kema Amar Ayom la Sotam, excusez-moi. C'est là, page 256, on était là.
Ah, 256,
ouais.
56.
Non, j'ai fait actif.
38.
Alors, Kema Amar Ayom la Sotam. Attends, voilà. Bon, on s'est arrêté à 5 lignes avant la fin de la page 256.
5 lignes.
Qu'est-ce qu'il dit? T'as oublié ton livre, David?
Bien, bien. Il m'a dit 256.
C'est un paragraphe.
Chaim.
C'est le 5e.
Il y a un passage qui dit comme ça. C'est écrit Ayom la Sotam. C'est écrit aussi dans le schéma. Qu'est-ce qu'on dit dans le schéma? Vehaya, Im Shamo Atishmeu El Mitzotai, Asher Anochim Metzave Etrem, Ayom. Qu'est-ce que Dieu a dit? Si vous allez écouter les mitzvot que je vous ordonne aujourd'hui. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Il dit la Gemara comme ça. La Gemara a dit, Ayom, la Sotam. Aujourd'hui, il faut faire, écoutez messieurs, il faut se concentrer parce que là, ça va se compliquer un petit peu. Allez, on pose les poissons et les thons et les, alors, écoutez bien. Ah, quelques minutes qui vont suivre, ça va se compliquer un petit peu. La Gemara a dit comme ça. C'est écrit, Vehayaim, Shamo, Atishmeu, El Mitzvotai, Asher Anochim, Etzave Etrem, Hayom. Dieu y dit. Si vous écoutez les mitzvot que je vous ordonne aujourd'hui. Pourquoi on précise aujourd'hui? Pourquoi c'est aujourd'hui, pas demain, pas hier? Pourquoi on précise aujourd'hui? Dit la Gemara, elle dit parce que Hayom, la Asotam. Aujourd'hui, on doit faire les mitzvot. La Asotam, la Asiya, c'est l'action. Ou les Machar, et demain. Demain, ça veut dire le grand demain, c'est-à-dire quand Machar viendra, etc. Au Lamaba, au Gan Eden. Les Kabel Sraram, on recevra le salaire. Ça veut dire qu'on nous sommes ici dans le monde de l'action. On n'est pas dans le monde de la réflexion. Alors, c'est, je sais que c'est curieux ce que je dis, parce que concrètement, on sait que la qualité des hommes, c'est quoi?
Le fait de dire qu'il y a une récompense, c'est déjà une réflexion.
Oui. Mais ce qu'on veut te dire ici, c'est qu'en vérité, alors, j'ai expliqué pourquoi c'est compliqué. Les hommes, c'est quoi la différence entre un homme et un animal?
Réfléchir.
C'est que l'homme, il réfléchit. Quand tu viens voir un homme, tu lui dis, tu sais, tu es dans un monde. Et le plus important dans ce monde, c'est pas de comprendre, c'est d'agir. C'est très difficile pour un homme à accepter ça. Pourquoi? Parce que je suis pas un animal. Un animal, tu lui dis, fais, il fait. Moi, je suis pas un animal. Mais c'est comme ça.
Ça dit qu'un animal.
C'est comme ça que dit la Gemara. La Gemara, elle dit comme ça, elle reprend ce passage qu'elle dit, ayom, la asotam. Elle dit qu'aujourd'hui, d'accord? Aujourd'hui, c'est pour faire, et demain, c'est pour recevoir le salaire. J'amène souvent un exemple que j'avais amené surtout dans les premières années qu'on avait fait le Tania. Qu'aujourd'hui, on est là pour agir, demain on est là pour être récompensé. J'avais un exemple comme ça, qu'il y avait un rav qui nous avait dit quand on était à la yeshiva, un exemple qui m'a toujours marqué. Il avait dit comme ça, il a dit, imaginez, on vous fait rentrer dans un cockpit d'un pilote. D'accord? J'ai raconté ça il y a quelques années. On te fait rentrer dans le cockpit d'un pilote, mais les fenêtres sont cachées, donc tu vois pas ce qu'il y a derrière. Et qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, les boutons à droite, faut appuyer un maximum, les boutons à gauche, interdit d'appuyer. Maintenant, toi, tu vois rien ce qui se passe. Toi, tu vois pas qu'est-ce qui se passe quand t'appuies sur le bouton à droite, qu'est-ce qui se passe sur le bouton à gauche. T'as rien, il y a un drap noir, tu vois rien ce qui se passe. Donc, tu commences à appuyer au début, tu t'es carré, t'appuies les boutons à droite, etc., les boutons à gauche, t'appuies pas. Mais après, t'es tenté. Et les boutons à gauche sont là, ils clignotent en rouge, comme ça. D'accord, c'est l'interdit. Tu touches, et qu'est-ce que tu vois? Il se passe rien. Non, il se passe rien. Il se passe rien. D'accord? Donc tu dis bon! D'accord? Il se passe rien. En plus, d'accord? C'est encore plus, si c'est appétissant, ça veut dire si je gagne quelque chose avec ça ici, dans le cockpit, je dis bon, c'est pas grave, parce qu'on verra bien. Et qu'est-ce que tu fais? Donc tu appuies, tu fais un peu des deux. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Des mois plus tard, on t'enlève le drap. Et là, on te montre, on te dit regarde. Tu te rappelles quand t'appuies sur le bouton à droite? Là, t'as construit une rue. Là, t'as construit une ville. Tu te rappelles quand t'appuies sur le bouton à gauche? Là, t'as détruit une ville. Là, t'as détruit une rue. Là, t'as détruit une maison. Et on te montre ce que tu as fait. Alors, tu dis, ah, attendez, mais je veux revenir au cockpit, je vais appuyer. Et là, tu comprends les erreurs que tu as fait. Tu dis, mais attends, c'est dommage, j'ai pas appuyé sur ce bouton. Et là, non, trop tard. Il y a un moment pour agir. Il y a un moment pour recevoir le salaire. C'est quoi le salaire? C'est de voir ce que j'ai fait.
C'est plutôt pour faire les comptes, alors.
C'est pas les comptes. C'est apprécier ce que j'ai fait. Eh ben, c'est la Gemara qui dit ça, la Gemara dans le traité Hérouvine. Qui nous donne cette phrase magnifique, je pense, c'est une phrase qui peut nous faire toute notre vie, ça. Elle nous dit, il faut bien faire la différence entre aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, notre but, c'est d'agir. Demain, notre but, c'est de contempler ce qu'on a fait. Et on peut pas mélanger les deux. Ça veut dire que quand aujourd'hui, on veut contempler ce qu'on a fait, et quand on veut demain, quand on verra l'impact de ce qu'on a fait, dire, ah, maintenant, je vais rajouter, on pourra pas. De la même manière que maintenant, je peux pas contempler ce que je fais, de la même manière, plus tard, je pourrai plus le récupérer. C'est trop tard.
Même si on
est fait, est fait.
Donc plus tard, c'est le bilan.
Alors, plus tard, si ma chère n'est pas encore venue et qu'on décide de te faire redescendre, on décide de te faire redescendre. Mais quand ma chère arrive, si ma chère arrive maintenant, d'accord, et qu'on tu redescends pas, c'est trop tard. Ce qui n'est pas fait. Donc, hayom la sotam, ou le machar le kapel sraram. Donc, encore une fois, le rapport avec le cours de la semaine dernière, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour chercher les raisons. Parce que pour chercher les raisons, ça veut dire que tu vas comprendre. Mais tu comprendras pas aujourd'hui. Le peu qu'on va comprendre, c'est pas la vraie raison. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est agir. Demain, on comprendra. Et demain, quand on voudra agir, on te dira, ah non, c'est trop tard. Donc, chaque seconde de perdu, chaque action de perdu, c'est trop tard. Chaque jour qui passe, comme il dit dans Yom Yom, il dit, chaque jour qui passe, c'est une vie entière qui passe. C'est trop tard. C'est impossible de rattraper. Comme dit la Gemara dans le traité Brachot, elle dit comme ça. Elle dit, une personne qui a raté un jour, le blé tire le schéma. C'est fini. Même s'il va faire le schéma tous les jours jusqu'à la fin de sa vie, ce schéma qu'il n'a pas fait, c'est fini. Dieu a dit, tu dois faire le schéma, si tu vas vivre 80 ans, Marcel, comment ça fait 80 fois 365? 4002? D'accord? Alors, Dieu, il t'a dit, tu dois faire, toi, dans ta vie, tu devras faire, allez, j'arrondis, tu feras 5000 fois le schéma. J'ai manqué une fois, et toutes les autres fois, j'ai fait. J'ai manqué. C'est irrécupérable. Combien?
28
800. Combien? Attends.
Non.
80 fois.
Pas 28 800.
80 fois 300.
Mais ça fait 4 fois 8, 32, ça fait 3200. 3100,
c'est vrai. 100 fois, débrouillez-vous, pas du vrai.
2 fois, ça fait 36 000.
80 fois.
De toute façon, on a raté une trentaine d'années.
Moi, je prends 5, 33 000 à ramener.
Vas-y.
Donc, je tombe dans le vrai avec la mise à qu'on fait, c'est comme. Tiens, on fait l'action, mais on ne fait pas comme une BMA.
Oui.
Parce que la preuve, l'action, comment tu l'as fait? Il faut la travailler en soi-même pour que soit joyeux.
Ça, c'est la question de Youssef. La question de Youssef. Youssef, il a poussé encore plus loin. Il a dit, mais on voit que tu as même des cours qui t'expliquent les mitzvot. C'est pas une contradiction. Parce qu'on veut nous encourager à faire les mitzvot. Mais on veut que très rapidement, on quitte ça. Et surtout, que je ne fais pas la mitzvah parce que je l'ai compris. Est-ce que tu vois la nuance? Ça veut dire, par exemple, tout à l'heure, je t'ai parlé de ton père. Quand on au Hachem, jusqu'à 120 ans. Non, mais je vais t'expliquer. De temps en temps, ce serait bien que tu réfléchisses, d'accord? Quand t'es chez toi à la maison, comme ça, sur ton canapé, tu réfléchisses comment, à la vérité, je dois beaucoup à mon père, qu'est-ce que mon père m'a fait. C'est très bien de faire. Mais où est le piège? C'est qu'après, quand tu vas lui rendre service, tu vas te mettre à dire, ah, je lui fais ça parce que lui aussi m'a fait ça quand j'étais petit. Tu vas rentrer dans ce donnant-donnant. Ça, c'est pas bon. Mais le fait de réfléchir à ce qu'il t'a fait, c'est très bien. Ça va t'encourager, c'est très bien.
Parce que je sais pas pourquoi, j'ai jamais rien donné. On n'a pas vu qu'il nous a donné en
tout cas. Bien sûr qu'il nous a donné. Mais de dire par exemple, je mange cachère parce que regarde les goyim, ils mangent pas cachère, regarde, ils se retrouvent avec la viande de cheval. Non.
C'est bon.
Ça, on me l'a dit. Hein. Moi, c'est un goy, il m'a dit. Ah, il ne peut pas que je ne pas ça.
La viande d'âne, même. La viande d'âne.
La viande d'âne, maintenant.
En Angleterre, de la viande d'âne.
Vas-y. Même le kivou d'Abaem, on le fait pas pour en tant qu'un Karatatov. On donne la question de Youssef. Youssef pose une autre question. Il dit, on sait que par exemple le kivou d'Abaem, c'est le Sefer Hinour qui explique ça. Il dit que pourquoi on fait kivou d'Abaem, ça veut dire honorer son père et sa mère. Pourquoi on honore son père et sa mère? D'accord. La raison numéro un, c'est quoi?
C'est marqué.
D'accord. Mais la raison logique, c'est quoi? C'est quoi la raison logique? C'est parce que c'est la reconnaissance. D'accord. Seulement quoi? Qu'est-ce qui se passe maintenant avec un gosse que ses parents, ils l'ont torturé quand il était enfant? Ils l'ont tué.
Qu'est-ce qui se passe alors?
Alors qu'est-ce qui se passe cet enfant quand il grandit? Il doit respecter ses parents ou pas?
Oui, mais moi je te
dis. Ah pourquoi oui? Attends, pourquoi oui? Il leur doit rien?
Non, mais.
Qu'est-ce qu'il leur doit?
Tu m'as dit, on justifie pas et pourtant c'est comme ça qu'on justifie.
Donc ce que je vais expliquer, c'est que toutes les raisons ont des failles. Les failles, c'est les exceptions. Et puisque dans l'exception ça marche pas, ça veut dire que partout ça marche pas.
Alors on en donne pas alors?
Non, on en donne pour nous aider. Pour nous aider. Tu comprends, par exemple?
Qu'est-ce qu'on répond?
Par exemple, la Gemara te dit, celui qui s'occupe pas de ses parents, ses enfants s'occuperont pas de lui. Bah, tu entends ça, tu dis bon.
Ça fait peur.
Mais c'est pas la raison. C'est pas pour ça que je le fais. Bon, des fois, des petits coups de pouce comme ça. Donc, retenez bien.
Qu'est-ce qu'on répond à cette personne-là?
Il est obligé de nourrir ses parents.
Ses parents, ils l'ont désingué.
Il est obligé de les respecter.
Désingué, il est obligé de les respecter.
Alors maintenant, s'il y a un danger, bien sûr qu'on va l'éloigner, mais après, dès qu'il va grandir, il doit continuer à respecter ses parents. Parce que c'est lui qui l'a amené au monde. Il leur doit le fait qu'il les a amenés au monde. Qu'il l'a amené au monde. Quelle est Karatatov?
Tu lui redois, tu
c'est très compliqué à expliquer ça.
Qui t'a venu au monde.
Il y a des gens qui ont maltraité leurs enfants, Dieu préserve. T'as des gens qui ont, Dieu préserve, sodomisé leurs enfants. Tu sais, les histoires qu'on entend aujourd'hui, des trucs.
Eh
bien, on te dit quand même, tu dois respecter tes parents, c'est comme ça.
Même dans un cas comme ça, comme tu viens de dire.
Bien sûr, oui. Quand il y a un danger, on va s'éloigner, mais ça veut dire dès qu'on peut, il faut continuer à respecter ses parents. Parce que c'est une mise à la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le monde du salaire. Le monde du salaire, c'est demain. Nous sommes pas dans le monde. Le plus grand salaire, on avait dit, c'est quoi, vous rappelez, il y a deux semaines, on avait expliqué, on avait fait le cours sur le Rambam. Le plus grand salaire, c'est quoi? C'est de comprendre. On n'est pas dans ce, on n'y est pas maintenant. Faut pas chercher, on n'y est pas. Aujourd'hui, on est dans le monde de
l'action.
La rassotable, l'action. Et, il y a eu une fois, une grande marloquette entre les sages. D'accord? Il y a eu une grande marloquette entre les sages qui est racontée dans le traité Kiddushin, page 40. La Gemara raconte qu'une fois, les sages étant en marloquette, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que l'étude est plus importante ou l'action est plus importante? Une grande marloquette entre les sages. Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est les hommes d'action ou les hommes d'étude? Est-ce que c'est l'étude ou l'action?
L'action et après l'étude.
Moi,
d'accord?
Je dirais que c'est l'action.
Non. Alors, on a envie de dire, c'est l'action.
Bah, il y a marqué Naasem et Nishma.
Alors, qu'est-ce qu'a tranché la Gemara là-bas? C'est assez curieux comment la Gemara a tranché. La Gemara a dit, l'étude est plus grande. Pourquoi? Parce qu'elle amène à l'action.
Elle mène à l'action,
non?
Oui.
Regardez la chokhma qu'il y a derrière. Ça veut dire, écoutez bien la chokhma, c'est qu'une personne qui fait de l'action, sans comprendre. Celle-là, ça va répondre à ta question, Youssef. Une personne qui fait de l'action sans comprendre, forcément, ça délimite. À un moment, il va craquer. Donc, on lui dit, on préfère que tu commences par l'étude. Parce que quand tu vas étudier, tu vas comprendre pourquoi tu dois agir. Et quand tu vas agir, automatiquement, ton action, concrètement, elle va durer plus longtemps. Mais ça veut dire qu'en vérité, au fond du compte, qu'est-ce qui est plus grand? C'est l'action ou l'étude?
L'action.
C'est l'action. Parce que pourquoi l'étude est plus grande? Parce qu'elle mène à
l'action.
Donc, ça veut dire que l'action est plus grande. Oui, mais ça veut dire que même la Gemara qui a dit que, il s'est posé la question, la Gemara, c'est les maîtres de la Gemara qui sont là pour comprendre. Ils ont dit, qu'est-ce qui est plus important, comprendre ou agir? Ils ont dit, comprendre c'est plus important parce que ça amène à l'action. Ils ont pas dit comprendre c'est plus important parce qu'on est des hommes et qu'on a un cerveau et que notre but c'est de comprendre. Non, ils ont pas dit ça. Ils ont dit comprendre c'est plus important parce que la compréhension mène à l'action.
Si tu comprends pas, tu peux pas faire.
Ça veut dire qu'aujourd'hui on est dans un monde d'action.
Tu vas mal faire.
Donc, non, il a raison. C'est vrai que des fois, t'as des gens qu'ils arrivent pas à se lancer quand ils ont pas compris un peu. Donc, on va nous aider un peu à comprendre. Mais en vérité, le but, c'est l'action. Va l'omet, et là, c'est les mots très durs de la Gemara que je vous ai dit tout à l'heure. Va l'omet, shelo la'asot. Celui qui étudie. Shelo la'asot. Pas pour agir. C'est celui qui étudie juste par curiosité intellectuelle. D'accord? Qui étudie, pas pour agir. Étant donné, rappelez-vous que le but de l'étude, c'était pour arriver à, pour mener à l'action. Donc celui qui utilise l'étude à ses propres fins et qui ne va pas amener à l'action, qu'est-ce que dit la Gemara sur ça? Noachlo shenefra shigato. À ce moment-là, il y a une voix qui sort du ciel et Dieu dit, celui-là, c'est mieux que son placenta se serait retourné quand il était dans le ventre de sa mère.
Rien que ça.
En d'autres termes, ça veut dire, il aurait mieux fait de mourir avant de naître.
Amen Dieu.
C'est les mots de la Gemara.
Moi, je suis venu au cours parce qu'on m'a dit qu'il faut étudier.
Bien sûr.
Mais et après, avec le temps, voilà.
On t'a dit qu'il faut étudier. Mais ce que je vais expliquer ici, c'est pas ça. J'ai pas dit qu'il faut pas étudier. Ce que je vais expliquer ici, c'est que quand je fais une mitzvah, je fais pas la mitzvah parce que je connais la raison. Je fais la mitzvah parce que je dois la faire. Parce que c'est comme ça. Et que je dois me dire que les raisons que je me donne, c'est seulement pour m'encourager.
Mais l'action.
Ça veut dire qu'on doit être des hommes d'action, des hommes de terrain.
C'est un militant CGT.
Attends, mais là, quand il y a marqué que celui qui vient pour étudier, seulement pour étudier.
Oui.
Pour ça, ils mettent les TF aux gens dans la rue.
Mais il y en a qui font ça bien, justement pour connaître, ouais. Pour voir, pour comprendre, pour, et ça intriguer. Bon, d'accord, tu veux comprendre.
Le plus vite possible, il faut amener à l'action. Regardez, vous savez, quand le rabbi l'avait lancé,
quand tu dis ça, la personne qui fait ça dès le départ sera maudite, parce que
non.
Par la suite, elle peut changer.
Il est en train d'apprendre. Tu sais, quand le rabbi avait lancé la campagne des téfilines, d'accord? C'était juste avant, la guerre de Kippour. Le rabbi avait lancé la campagne. Il a lancé aussi beaucoup de campagnes comme ça. Il y avait beaucoup de gens qui critiquaient. Même des rabbins, de quoi? Qui critiquaient. Qui disaient, mais pourquoi on va voir des gens qui sont pas religieux, on leur propose de mettre les téfilines? Alors qu'en vérité, ils comprennent pas ce qu'ils font, ils le font sans comprendre. D'accord? Ils vont le faire une fois comme si, bon. C'est beaucoup mieux de venir, de leur faire un cours de Torah, de leur expliquer, et après, avec le temps, tu dis, voilà, je t'explique le musée des Tfilines, il va mettre les Tfilines. C'est plus logique, c'est plus cohérent. Qu'est-ce qu'a répondu le rabbi?
Il a révolutionné tout ça, parce que ça n'existait pas.
Alors,
avant.
Je vous explique.
Mais
à l'époque, il n'y avait pas autant de gens pas religieux.
Le temps que tu lui expliques, t'as perdu.
Les gens à Belmine n'avaient pas.
Il n'y avait pas. Prenez, il y a un siècle, la majorité du homme israël était religieux.
Vous ne voulez pas, au début.
C'est évident, 100%.
Mais bien sûr.
Non,
par contre. Il y a moins d'un siècle, la majorité du homme israël était religieux.
Ça dépend où?
En Allemagne. Dans le monde séfarade? Dans le monde séfarade, vous prenez, il y a 50 ans, 60 ans, la majorité du monde séfarade était religieux. C'est des faits, ce que je veux dire.
Chez nous, il séfarade, lui, mais Ashkenaz.
D'accord? Alors voilà. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'a dit le rabbi?
Il y avait des rabbins dans la Pologne.
Il n'y avait pas que des rabbins, il y avait des gens religieux et pas
des anciens aussi. Il y avait des anciens. Ce qui est arrivé chez nous, les séfarades, ça fait 50 ans. Chez les Ashkenaz, c'est déjà arrivé il y a 200 ans.
En Allemagne, ils n'avaient pas que des rabbins.
Moi, j'en ai vu en Afrique du Nord.
Oui, mais je parle de l'émancipation. L'émancipation.
Je disais, on était la majorité. La quoi dit majorité était religieuse. Hein.
L'émancipation et l'Occident, hein, d'accord.
Ce qu'il est en train de dire, c'est grave.
C'est déjà ce qu'il a, honnêtement. C'est déjà ce qu'il a. Au moment d'Achoa, il n'y avait pas de middle. C'était où? Complètement à l'ouest.
Mais oui, complètement. En Allemagne, c'était complètement arrêté.
C'était bon. Alors je reviens à notre sujet.
Hier, il y avait Cohn-Bendit à la télévision. Personne n'a regardé. Il a dit, si je vis jusqu'à 120 ans, vous avez trouvé ça extraordinaire, je te promets.
120 ans,
il a dit 120 ans.
Il a un frère rabbin, Cohn-Bendit. Il a un frère rabbin en Israël, non?
Ah bon?
Oui,
il a un frère rabbin.
Oui, oui. Ils sont 20 ans, je dis, comment est-ce qu'ils font?
Il aurait pu être rabbin lui aussi, etc.
Non, mais il a un frère.
C'est quoi, là?
Son père, c'était un grand copain, ce qu'on appelle Manitou, le rave.
Oui, Kenazi.
Donc, je reprends dans les mots, d'accord? Le but, donc, j'ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui critiquaient, d'accord? Qui critiquaient, qui disaient, mais pourquoi c'est pas mieux de faire un cours de Torah pour expliquer? Qu'est-ce qu'a répondu le rabbi? Le rabbi a répondu, il a dit, on est dans un monde d'action. Et une action peut faire beaucoup plus qu'un cours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas mettre les tefilines à quelqu'un, quand tu vas lui mettre une mezouza dans sa porte, quand tu vas lui faire qu'il mange kasher, c'est une action. Comme on vit dans le monde de l'action, une action, ça peut agir, ça peut avoir un impact sur une personne beaucoup plus que l'étude. Parce qu'on n'est pas dans le monde de l'étude. Le monde de l'étude, c'est plus haut. L'étude, pourquoi on fait l'étude ici? C'est seulement pour nous amener à l'action. C'est-à-dire que celui qui a l'action, il a tout compris. Donc maintenant, t'as pas de temps à perdre avec celui-là. Comme a dit Youssef, il a dit, celui-là, le temps que tu vas te mettre à discuter avec lui, il a fini. Alors que quand tu l'as mis les tefilines, c'est quoi la chose que tu as gagné? C'est que peut-être avec le feeling que tu as fait, tu vas bouger quelque chose à l'intérieur. Parce qu'on est dans le monde de l'action, et une action agit beaucoup plus que, l'étude. Et c'est comme ça. Ça veut dire, on dit par exemple, je sais que dans la Gemara, je sais que chez les psychologues, on dit beaucoup ça, que on influence beaucoup plus par ses actions que par ses paroles. Nos enfants, d'accord, ça veut soit par rapport à nos enfants, que c'est même par rapport à tout le monde.
Parents, c'est évident.
Parce que c'est comme ça. Par nos actions, on influence beaucoup. C'est le non-dit. Le non-dit influe beaucoup plus que le dit. D'accord? Il y a le non-dit et il y a le men-dit. Alors, c'est comme ça. C'est des choses que... Pourquoi? Parce qu'on vit dans le monde de l'action. On vit dans le monde de l'action. Comment il dit le Sefer HaChinuch, qui ramène ça aussi de Rabbeinu Bechaye, il dit « Achare amaasim nimshachim alevavot ». Il dit « Le cœur suit l'action ». C'est pas le contraire. J'explique. Les gens, ils pensent que quoi? Les gens, ils pensent que d'abord, il faut que je ressente et après, je vais agir. Répond le Sefer HaChinuch, Rabbeinu Bechaye, ils te disent non, c'est le contraire. Ils te disent, après les actions, suit le cœur. J'explique ce que je veux dire. Par exemple, je veux aimer quelqu'un. J'avais donné ce exemple il n'y a pas longtemps, le Shabbat matin. Je veux aimer quelqu'un. D'accord? Maintenant, je l'aime pas. Je l'aime pas, j'ai pas de sentiment. Alors, c'est quoi les deux options que j'ai? Première option, c'est d'essayer de créer un sentiment d'amour dans mon cœur, et après, je vais dire les mots, je t'aime. C'est-à-dire, je vais commencer avec le cœur, et après, je vais passer à l'action. Réponse de la Torah, c'est faux. La Torah dit ça marche pas comme ça. Tu vas dire je t'aime, et à force de dire je t'aime, tu vas l'aimer.
C'est quoi la phrase en hébreu?
Achare amaasim nimshachim alevavot. Après les actions, suivront les cœurs. Phrase énorme de Rabbeinu
Bechaye. La charité, c'est pas l'action, c'est le cœur.
Celui qui?
Qui réclame la charité. C'est de la peine qu'il lui donne.
Et si t'as pas de la peine?
C'est le cœur.
Attends, écoute-moi.
Si t'as pas de la peine.
Quelqu'un il vient ramasser la tzedaka.
C'est pas certain que tu lui donnes. Hein.
D'accord, je pose une question. Quelqu'un vient ramasser la tzedaka, t'as pas de la peine, t'as pas envie de lui donner.
Oui, alors?
D'accord. Est-ce que tu dois attendre que t'as envie de lui donner? La Torah te dit non. J'ai pas de pitié, ça me fait rien. Et tu lui donne-lui, fais comme si tu as pitié. Et après les actions sur le cœur. Je vais vous raconter une histoire personnelle.
Donc ça, c'est pour avoir un bénéfice d'avoue.
Non, oubliez le bénéfice. Je vais expliquer un concept que, étant donné qu'on vit dans le monde de l'action, l'action influe, d'accord, sur les sentiments, sur le psyché. Je vais vous raconter une histoire, j'avais raconté il y a quelques années. Et c'était en 2006, d'accord? En 2006, tu écoutes Michael, en 2006 une fois, hein, j'étais avec ma femme, on avait que ma petite Mamouchka, et on était en été, d'accord, au mois d'août. Ma femme m'a dit, depuis qu'elle est petite, elle rêvait d'aller en Italie. Elle voulait voir les différentes villes en Italie. On va aller. Donc, je partais au mois d'août, d'accord? On a loué une voiture, on a fait un planning avec les points, les hôtels, loués, etc. On a fait tout un programme. Donc la première escale, c'était où? C'était Florence. Quelle était Florence?
Hein?
Très belle ville.
Ouais.
Donc j'ai cherché sur Internet. Non, moi je savais pas. J'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé un hôtel 4 étoiles. Non, attention, les étoiles italiennes, c'est...
C'est des étoiles filantes, non?
La vie en Tunisie, c'est étoiles plus.
Mais moi je savais pas ça. Moi je savais pas, j'étais encore bleu. Alors, hein? Écoutez l'histoire, d'accord? Donc, on arrive, déjà bon, plan galère, on arrive un peu en retard, d'accord? Parce qu'on a traîné sur la route, parce qu'il y a des paysages magnifiques, on arrive le soir, et on met dans le GPS, on arrive, je cherche hôtel 4 étoiles, on arrive devant un immeuble. le GPS il me dit vous êtes arrivé.
Vous êtes arrivé à 100 mètres.
Et moi je regarde, je dis mince, c'est un immeuble quoi, un immeuble classique. J'ai dit, c'est un problème. Je tourne, je retourne, j'ai dit, vous êtes arrivé. Alors, j'appelle l'hôtel, il dit, oui, oui, on vous voit en bas, vous êtes en bas. Je monte, catastrophe, c'est quoi, c'est un, ils ont loué, enfin, ils ont peut-être acheté un étage dans un immeuble, ils ont fait un hôtel. Mais la catastrophe. La catastrophe. Alors, ma femme m'a dit, même pas en rêve, rentre ici. En plus, c'était bizarre. Enfin, un plan galère, grave. Alors, un plan galère. Donc, bien sûr, on n'est pas rentré, on est parti. Et après, donc on est parti chercher un catastrophe à notre hôtel à côté du quartier juif. Bon. Et donc, du coup, je sais pas comment on a payé la nuit d'hôtel. Vous savez, quand vous prenez une nuit comme ça, t'as pas le choix, tu prends et c'est tout. Et comme ça, il y a eu que des galères pendant 2-3 jours. On était dégoûtés, on n'arrivait pas à se sentir en vacances. Et on était comme ça pendant 2-3 jours, on se dit, mince, attends, on est en vacances. Ouais, tu sais, des fois, quand t'as des plans galères comme ça, t'es en vacances, mais tu te sens pas en vacances. Alors ma femme m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? À un moment, même, on s'est dit, bon, écoute, on va rentrer, c'est tout. Qu'est-ce qu'on perd notre temps ici? Alors je lui ai sorti à ma femme cette phrase, je lui ai dit, écoute, c'est écrit dans la Torah. La Torah, elle dit que quand on n'arrive pas à sentir quelque chose, il faut faire comme si, il faut simuler, et après ça viendra. Alors je lui ai dit, viens, on va sortir, on avait la caméra, l'appareil photo, on est sorti, grand touriste. Caméra, appareil photo, comme si que... Et une heure, deux heures, trois heures, on s'est mis dans l'ambiance, et après c'est parti. Et ça m'a marqué toujours. Maman, j'ai vécu ce que Rabbeinu Bechaïa a dit. Que des fois, quand tu vis pas quelque chose, le fait de simuler, le fait de faire comme si... Ton cœur va suivre. Parce qu'on est dans le monde de, l'action. Et dans le monde de l'action, quand t'arrives pas à apprendre, eh ben, tu fais, tu avances. Et t'inquiète pas, les sentiments vont venir en même temps, les sentiments vont venir automatiquement. C'est ça ce qu'explique Rabbeinu Bechaïa. Étant donné qu'on vit dans le monde de l'action, hayom la asotam, aujourd'hui on doit agir. Alors ça, t'avais une question. Ah, tu voulais, t'es en train de dire quelque chose, hein?
Non, on a parlé de charité, mais j'ai...
Ah, alors, est-ce que t'as compris pour la charité? Quelqu'un, il vient ramasser. Quelqu'un, il vient ramasser l'argent. T'es pas inspiré, d'accord? Non mais c'est un exemple concret ce que je vais donner. T'as quelqu'un qui vient ramasser la tzedaka, t'es pas inspiré, d'accord? T'as pas envie de lui donner, t'as pas de pitié. Est-ce que tu donnes pas? La Torah te dit non. Tu donnes. Et en donnant, tu vas avoir la pitié qui va venir.
Non mais on parlait du cœur, si le cœur te dit de donner, c'est pas la Torah te dit. C'est-à-dire que c'était pas c'était l'action, c'était pas le cœur.
Oui.
C'est le cœur qui a pas envie de donner.
Mais justement, étant donné qu'on est dans le monde de l'action, il faut d'abord commencer par l'action et l'action amène le cœur. C'est la même chose qu'il faut savoir pour le mariage. Dans le monde goy, qu'est-ce qu'on pense? On pense que d'abord il faut aimer une femme et après on se marie avec elle. D'accord? C'est comme ça qu'on pense dans le monde goy. Dans la Torah, c'est exactement le contraire. Tu dis non. D'abord tu te maries avec elle et en vivant avec elle, tu vas l'aimer.
On va te tromper, il y a
Non mais c'est très sérieux. C'est encore une illustration du principe qu'on a rien expliqué. Que Ahare Amaasim, retenez quatre termes, quatre mots. Ahare Amaasim, Nimshachim, Alevavot. Après les actions suivront le cœur. Ça veut dire d'abord tu commences, tu te maries, et en te mariant et en vivant comme un homme marié, d'accord, en ayant des enfants et en vivant comme un homme marié, automatiquement les sentiments vont venir, et là ça va être des vrais sentiments. Parce qu'encore une fois, on est dans le monde de l'action. Ça, c'est parce que là-bas, il parle du Ham, il parle du Ham Israël. Quand il dit que pareil, Akadosh Baruch Hu, il a fait la même chose. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Pour le Har Sinaï, pour nous préparer au Har Sinaï, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a demandé tous de nous rassembler autour du Har Sinaï. Comme si que, on attend. Alors qu'en vérité, on n'était pas unis. On n'était pas unis. D'accord? On n'était pas unis. On n'était pas unis à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il a dit, rassemblez-vous tous autour de la montagne. Et quand on se rassemble, il y a une sorte de buzz comme ça qui se fait, on est tous comme ça ensemble. Et ben, automatiquement, l'action a fait que le cœur aussi a suivi, qu'on s'est senti unis. Ça veut dire que le fait de faire quelque chose, c'est ça ce qui fait que tu vas te sentir comme ça. Pareil pour Purim maintenant. Voilà, Purim, on va être Bezrat Hashem, on va dire tous.
Les
Chaim. Les Chaim. Pourquoi on dit les Chaim? Si une personne n'est pas joyeux. Non mais c'est vrai.
Chacun a sa mitzvah. Moi j'ai compris la même.
Il y a une fois quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit à quoi ça sert?
C'est un sac à dos.
Il m'a dit c'est pas logique. D'accord?
Des tuyaux.
C'est une auto-suggestion.
Il m'a dit c'est pas. Exactement. Ouais, c'est une très bonne définition. Il m'a dit comme ça, quelqu'un qui m'a dit, c'était pourri, ou je sais plus quand c'était, je lui ai dit l'Echaïm. Il était un peu triste comme ça. Il m'a dit non. Il m'a dit parce qu'après si je vais être joyeux, c'est pas que je vais être joyeux, c'est que comme j'ai bu, alors mais c'est pas moi qui va être joyeux, c'est l'alcool qui va être joyeux. C'est une question intéressante. Ça veut dire, qu'est-ce que je fais? Je suis triste, tu vas boire de l'alcool, tu vas être joyeux. Bon, est-ce que ça veut dire que t'es joyeux?
Non. C'est l'alcool qui t'a rendu joyeux.
Donc t'es pas joyeux?
T'es joyeux quand même, c'est toi qui es joyeux.
Bien, si, pourquoi?
Alors t'es joyeux ou t'es pas joyeux?
T'es joyeux artificiellement.
C'est quoi le pchat? Est-ce que t'es joyeux ou t'es pas joyeux?
Artificiellement.
Encore une fois, c'est quoi la réponse? La réponse, c'est ce qu'on est en train de dire ici. Qu'en vérité, un juif, au fond de lui, il est joyeux.
Oui, on l'avait dit.
D'accord. Seulement quoi, qu'est-ce qui se passe? Des fois, son Yitzhara, il lui fait croire que les problèmes de la vie sont tellement grands que du coup, il dit, ah, comment tu veux que je joue avec tous les problèmes que j'ai? Et quand il dit les Chaim, qu'est-ce qui va se passer? Il va apprendre à relativiser ses problèmes.
Il va relativiser.
Ça veut dire quand on va lui dire, quand on va venir le voir, lui dire, mais attends, mais t'as ce gros problème, il va dire, ah, c'est rien ça. Pourquoi? Parce qu'il a relativisé le problème. Il a donné plus d'importance à ce qui est plus important. Et qu'est-ce qui va se passer? Encore une fois, qu'est-ce qui vient de se passer ici? Achare amaasim nimshachim alevavot. Il a dit les Chaim, d'accord? Il s'est comporté comme quelqu'un de joyeux, il est devenu joyeux.
Après, on va lui dire, pourquoi tu bois? S'il faut quoi? S'il revient le lendemain, il faut revoir.
C'est parce qu'il y a des moments. Il y a des moments où on a besoin d'être inspiré. Après, on repart. Le rabbi l'avait dit une fois comme ça. Il avait dit qu'il faut faire un keli pour recevoir la simra. Il faut faire un réceptacle pour recevoir la simra. C'est-à-dire, Kadosh Baruch Hu, il va envoyer la bracha. Mais quand il va envoyer la bracha, il faut faire un réceptacle. Donc, de la même manière, quand on dit les chaim, Dieu veut nous envoyer la simra. Maintenant, nous, toi, tu es là avec tes soucis toute la journée. Comment tu vas être Bessimra? Alors, il faut faire un keli. C'est quoi le réceptacle? C'est, on va dire, les chaim. Sur ce,
les chaim. Les chaim. Donc, finalement, un bon keli, c'est avec de la vodka. C'est ça?
Pas que vodka, t'as plusieurs styles.
Après, les actions suivent le cœur. C'est-à-dire, comme je vais amener l'alcool et que l'alcool va me mettre Bessimra, automatiquement, je vais être Bessimra.
Bon, c'est un bon argument pour les 3A, ça.
V'chol Ada, pour les?
Les 3A.
Les 3A?
Alcoolique anonyme.
Ah oui.
Faut bien diriger les alcooliques anonymes.
Pour rester concret, c'est ça le plus important. V'chol Adam, Mouchach Leid Galgel, Ad, encore un autre élément pour nous montrer que on est dans le monde de l'action. On a déjà expliqué plusieurs éléments. On a expliqué que le but de l'étude, c'est pour amener à l'action. On a expliqué qu'aujourd'hui, c'est le monde de l'action et demain sera le monde du...
récompense.
De la récompense. Maintenant, un troisième point. Dis-le à Rizal que Vechol Adam, tout homme, Mouchach Leid Galgel, il a l'obligation, qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas, Leid Galgel, de passer par autant de Gilgul, autant de réincarnations qu'il faudra. Ad, Sheyekayem, Kol Atariag, Mitzvot, Pepoel Mamash. Kanoda, Meharizal. C'est le Harizal qui nous dit ça. Le Harizal nous dit que toute Neshama devra passer obligatoirement par les 613 000 fois. Ça veut dire, je vais vous donner un exemple concret. Imaginez par exemple...
Je vous donne un exemple.
Imaginez par exemple que ma Neshama n'est jamais passée par la mitzvah numéro je sais pas combien, qui te dit, quand tu verras l'âne de ton ennemi ou de ton ami crouler sous sa charge, tu devras l'aider. Elle n'est jamais passée par cette mitzvah. Mon âne n'est jamais passée par cette mitzvah.
Il revient.
D'accord? Ça ne s'est jamais présenté à moi. Bon, ça s'est jamais présenté à moi, j'avais pas la mitzvah. J'arrive en haut. On fait le compte, bah, 612 mitzvot. 613e. On dit, bah, écoutez, elle s'est jamais présentée, pourquoi tu veux qu'il la fasse? Qu'est-ce qu'on te dit? Le Harizal te dit, chaque personne, on avait fait un cours une fois sur une lettre sur ça, chaque personne de ce monde-ci a l'obligation de faire au moins une fois chacune des 613 mitzvot.
Mais quoi, alors ça veut dire qu'on va revenir tout le temps, c'est parce que le temps n'est pas là, donc on ne peut pas...
Oui, exactement. T'as déjà été là, t'as une réincarnation. Je te rassure, on est tous des réincarnations. Il nous manque peut-être des fois une mitzvah.
Mais qui dit que sur qui j'ai tombé, il l'a fait tous.
Attends, tu as même été Cohen?
Non, les mitzvot qu'on ne peut pas faire, d'accord? Là, dans ce cas-là, on peut les accomplir que par l'étude. Mais les mitzvot qu'on peut faire, comme par exemple, il y a une mitzvah de divorcer. La mitzvah, c'est pas de divorcer, c'est que si tu divorces, voilà comment tu dois faire. Je parle des mitzvot qui nous concernent. Voilà, mais comme. Ah, mais c'est vrai, il y a une mitzvah de divorcer. Mais la mitzvah, c'est pas. La mitzvah, c'est si tu veux divorcer, voilà comment tu dois le faire.
Ah, c'est pour la mitzvah.
Marcel, t'as divorcé, toi?
Si t'es marié pour la mitzvah, divorce pour la mitzvah. D'accord, donc c'est quoi le pchat? C'est que toute personne du Ham Israël doit passer par les 613 mitzvot. Pourquoi? Maintenant on comprend pourquoi. Parce que étant donné qu'on vit dans le monde de l'action, donc puisqu'on vit dans le monde de l'action, c'est quoi les 613 mitzvot? 613 mitzvot, c'est de l'action. Donc on est obligé de passer par les 613 mitzvot.
Donc ça veut dire que tu es en train de nous dire quelqu'un qui a fait 612, j'ai compris qu'il a recalé, il revient
encore. C'est pas qu'il a recalé, c'est qu'on lui dit, écoute, t'es un grand sadique, tu dois revenir.
Ok, ça va. Mais il doit revenir, il doit refaire 613 ou il fait juste.
Non, non, il doit faire ça qui manque. Non, il faut répondre à la question. C'est une très bonne question. Ça veut dire comme ça. Imagine-toi que le gars, il arrive en haut, il a fait 612, il lui manque une. Mais les autres, c'était irréprochable. Il redescend en bas, il va faire celle qui manquait, mais au passage, il a.
Il a cassé
une centaine au passage qu'il avait déjà fait, d'accord? C'est-à-dire des avirotes qu'il avait déjà récupéré avant, mais qu'entre temps, bon, il a récupéré celle qui manquait, mais il a cassé une centaine. C'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Bien sûr, c'est possible. Quel est le dîne d'après vous? Qu'est-ce qu'on fait avec lui d'après vous?
Non, il l'a fait.
Je repose la question. Vous me suivez?
Oui, j'ai vu. Jamais revient. Donc elle les a déjà fait, c'est fait, c'est ça qui.
Maintenant il arrive en haut, imagine-toi voilà, que Maneshama, on m'a fait de redescendre pour une mitzvah qui manquait. Je descends en bas, la mitzvah qui manquait, je l'ai faite, mais au passage j'ai fait des avérotes que vous n'avez pas fait avant.
Attends, il fallait dire avant.
Qu'est-ce qu'on fait
non.
La réponse est très simple, c'est que dans ce cas-là je redescends pas.
Bien sûr.
Si j'ai fait l'élection de 13 mitzvot, je redescends pas.
Mais par contre, ce sera.
Seulement, j'aurai Gehinnom.
Voilà.
Je vais payer au Gehinnom en haut, mais je redescends pas. Pourquoi tu veux que je redescende? Je redescends pourquoi?
Tu vas payer pour ça.
D'accord.
Pour
100, je paye. Hein. Si on redescend, c'est que j'ai pas fini ma mission en bas. Donc en haut, je paierai. C'est-à-dire si je suis déjà passé au moins une fois par les 613 mitzvot, mais que entre temps j'ai fauté, alors je paierai en haut pour ça. Je paierai le temps qu'il faut.
Tu peux passer plusieurs fois par les 613 mitzvot.
Bien sûr, ça change. Il faut passer au moins une fois.
Au maximum 613
fois. Si nous tous on est là, c'est un principe très fort qui dit le Harizal. On l'avait touché rapidement ça dans une lettre qu'on avait étudiée. Là, on va le développer. Le Harizal, il dit un principe très fort. Il te dit si une neshama est là, c'est que forcément il y a une 613 mitzvot qu'elle a pas faite. Sinon, on serait pas là. Ah, on a fait des avérotes, c'est pas grave ça, on paye au Gehinnom. Il y a un Gehinnom pour ça. Non mais attendez, le Gehinnom c'est limité, le Gehinnom ça dure un an.
C'est cool.
D'accord. Ça dure un an, Gehinnom. D'accord. Ça dure un an.
Une seconde de Gehinnom, c'est pire que.
J'ai compris. Mais bon, ça c'est jouable. On paye, après c'est fini.
Donc ça de moins en moins, plus on avance, moins on
sera. Un an, Gehinnom.
Bien sûr.
Et ceux qui ont été décimés pendant la Shoah, ils n'ont pas eu le temps de les faire, ni les approcher.
Non mais ils sont revenus.
Ceux qui
non,
sont.
Attends, c'est une question.
Si Akadosh Baruch Hu a fait. On peut pas expliquer les calculs. Monsieur, j'ai compris. On peut pas expliquer les calculs de l'Akadosh Baruch Hu. Mais si Akadosh Baruch Hu a fait qu'ils sont niftar, d'accord, ça veut dire qu'ils ont fini leur mission. Peut-être que la mitzvah qui leur manquait, c'était la mitzvah de sanctifier le nom de Dieu. Je sais pas ce qui manquait. En tout cas, s'ils sont partis, c'est qu'ils ont fini. Et ceux qui ont réussi à s'en sortir, des miracles extraordinaires, ceux qui ont réussi à s'en sortir, c'est parce qu'ils ont fini leur mission.
Mais sur
quel calcul
on peut faire?
Il n'y a pas de calcul. Ceux qui sont finis.
Non, mais par rapport à
ce c'est pas des millions d'âmes. Moi, je vais encore plus loin que je vois des familles entières qui sont parties. Oui. T'as des familles que t'as personne qui les représente.
Oui.
T'as le père, la grand-mère, les enfants, les petits-enfants, tout le monde est parti. Il reste rien. Zéro, walou. Ils sont où? Ils sont morts? Non, c'est pas qu'ils sont morts. Ils ont fini leur mission. Comme ils ont fini leur mission, donc ils sont plus là.
Et leur neshamot, elles sont où?
Leur neshamot a fini leur mission.
C'est-à-dire?
Sinon, ils seraient pas partis. On a vu des fois dans des familles, etc., t'as un qui s'en sort. Tu crois que c'est par hasard? C'est pas par hasard, parce que lui, il a pas fini sa mission.
Et Dieu préserve un enfant qui meurt très très vite.
Il y a beaucoup d'histoires comme ça.
Qui meurt à la naissance.
Ça veut dire qu'il avait une mission de descendre sur Terre pour quelques secondes.
Oui.
Un incendie la deuxième fois.
Un garçon peut penser que c'est Mila, mais une fille, qu'est-ce que ça peut être tant qu'elle n'est pas.
On ne sait pas. Peut-être quelqu'un il a vu, il a remercié Akadosh Baruch Hu. Peut-être qu'il a mangé kasher. Parce que peut-être qu'il lui manquait quelque chose. Peut-être que dans le Gilgul d'avant, il n'a pas mangé kasher et que là maintenant il a mangé kasher. Parce que sa mère lui a donné à manger kasher. Je ne sais pas ce qu'il peut avoir. Il peut avoir des tas de choses. C'est les calculs de Akadosh Baruch Hu. Hein. Je vous avais raconté l'histoire de.
De l'enfant, là,
l'histoire de l'enfant de Madame Suleiman, je vous l'avais raconté, mais on n'était pas nombreux, on était 3-4 à ce point-là.
Au mois de décembre, ouais.
D'accord.
Le jour de Jésus.
Ouais, on n'était pas nombreux. J'ai raconté l'histoire. Il y avait la famille du rabbin Suleiman de Ivry-sur-Seine. Oui. C'est des grands amis de notre famille. Et ils habitaient avant, on était voisins à côté. Et elle a perdu un fils très jeune, enfin dans des conditions tragiques. Quand c'était un truc, ouais, il s'est sélectionné dans le mikvé, enfin un truc tragique, on sait même pas comment il a fait pour grimper, enfin un truc tragique. Et ça tracassait la mère pendant des mois. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi ça lui arrivait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et elle a raconté à ma mère, elle a dit, à part avec ma mère, elle a raconté à la communauté aussi, que quelques mois plus tard, il y a son fils qui est venu le voir en rêve, et qui lui a dit, puisque tu es tellement de peine, j'ai reçu la permission du ciel de venir te voir. La raison pour laquelle je suis venu dans ce monde, c'était parce qu'il me manquait tant et tant de temps de manger kasher que j'avais pas mangé kasher dans le gilgul d'avant. Et c'est toi, avec ça, j'ai pu terminer le tikkun de ma neshama. La mère, quand elle a entendu ça, ça l'a calmé. C'est un sroud d'avoir quelqu'un une neshama. C'est très rare les neshamas qui viennent parler d'en haut. Bon, voilà. Après, quand tu comprends ça, tu acceptes plus facilement. On est dans le monde de l'action.
Non, si tu le vois, ce que je veux dire, quand tu le vois, c'est différent.
Je serai jamais en dessous, jamais obligé de voir des
Bon, alors maintenant je continue dans la suite de cette lettre. À Otiot. Alors là, on va passer à un sujet qui est un petit peu différent. C'est la même lettre en vérité. Hein. Donc, je suis à la page 250. Donc maintenant, on est à la page suivante.
257.
Page 257. Alors regardez. Donc là, quand on va commencer ce sujet, extérieurement, ça va vous avoir l'air un autre sujet. Mais en vérité, ça va être la suite de ce qu'on est en train de parler aujourd'hui. De quoi on va parler ? On va parler des lettres. Des lettres du Sefer Torah, des lettres de la pensée, des lettres. Puisqu'on parle du monde de l'action, maintenant on va parler des lettres. Regardez ce qu'il explique ici. « Aotiot aniglot lanou, en de maase, dibou ou marshava. » Maintenant, il va donner un exemple concret pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire le monde de l'action. On va prendre des lettres. Et il va montrer comment dans les lettres, il y a le mode action, il y a le mode parole, il y a le mode pensée. On va regarder comment on va expliquer. Il dit comme ça. « Démarasser. Quel est l'aspect action qu'il y a dans les lettres ?»
La
valeur.
Non, l'image.
L'image.
Voilà.
D'accord. Et mounat. Regardez dans les mots, c'est de l'hébreu, c'est de l'hébreu très facile, ça. Cette lettre, c'est de l'hébreu particulièrement facile. Donc, vous avez dans les mots, c'est vraiment de l'hébreu facile, cette lettre. Aotiot, aniglotlen. Les lettres qui nous sont dévoilées. En de maase, dibou ou marshava. Que ce soit dans l'action, on va les développer dans le mode de l'action, dans le plan, le mode de la parole et le mode de la pensée. On va commencer par l'action. De maase. Les lettres au niveau de l'action, c'est quoi? Ça veut dire au niveau du concret, du réel. En, comme tu l'as dit, tmunot, aotiot, shbikta, vachori, shbesefer Torah. C'est l'image des lettres qu'il y a dans le ktav du Sefer Torah. Parce que vous savez qu'on avait expliqué, dans Shara Echut Ve'emuna, ça fait très longtemps qu'on avait étudié ça, que, en hébreu, il y a une importance, même sur la forme de la lettre. C'est pas des conventions. Par exemple, comment on écrit un A? D'accord? A, on l'écrit comme ça. On aurait pu décider de faire un A comme ça. On aurait pu, c'est une convention, c'est tout, seulement pour simplifier les choses, on va dire, ah, c'est comme ça. D'accord? En hébreu, c'est pas comme ça. Tu veux me passer le dans Malchut, derrière, parce que je voulais vous montrer le Alemium d'aujourd'hui.
Léo.
Il est là dans Malchut, David? David, le responsable du dans Malchut.
Il est derrière.
T'as reçu les étiquettes?
Oui. Ah, voilà.
Regardez. Comme quoi, Dieu, il fait pas les choses par hasard. En plus.
Youd d'en haut, le Youd d'en bas.
Ce matin, il était tard, donc j'ai pas eu le temps de faire les deux, j'ai fait un seul. Parce qu'il y a deux enseignements aujourd'hui. Voilà, je vais très pratique, on le fait ce soir. Regardez. Une fois, l'Admour Hazaken a appelé un des jeunes disciples du Maguide de Mezerich, donc son maître, et il lui a dit en chantant comme à son habitude. Parce que l'Admour Hazaken, quand il parlait toujours en chantant.
Qu'est-ce qu'il dit Gemara?
Du style, va me chercher s'il te plaît, ça. Il parlait toujours parce qu'il était toujours en mode Gemara. Alors, hein, alors, il a dit comme ça. Non, mais c'est sérieux, hein. Alors, il a dit comme ça.
Un jour, je fais ça à ma femme, elle m'a envoyé une casserole.
Alors, il a dit comme ça. Écoutez bien, écoutez cette phrase. Il lui a dit, j'ai une mitzvah de vous enseignerez à vos enfants. L'Admor HaZaken y parle. Il lui dit, moi, j'ai une mitzvah d'enseigner la Torah à mes enfants. Toi, tu as une mitzvah de subvenir aux besoins de ta famille. Donc, moi, je dois m'occuper de mon fils, je dois l'éduquer. Et toi, tu dois amener la parnassa. Toi, t'as pas trouvé de parnassa. Et moi, j'ai pas trouvé assez de temps pour m'occuper de mon fils comme tu veux. Comme je veux. Alors, viens, regarde ce qu'on va faire. Faisons donc échange. Viens, on va échanger. Moi, je t'apporte la manière d'avoir ta parnassa, et toi, tu m'apportes la manière d'accomplir ma mitzvah d'éduquer mes enfants. C'est-à-dire que lui, l'Admor HaZaken, est-ce que vous avez remarqué l'approche pragmatique? C'est-à-dire que lui, il voit pas, je suis parti demander les services d'un professeur. Il voit, on fait un échange de mitzvot. Moi, j'ai une mitzvah d'éduquer mon fils, toi, t'as une mitzvah de nourrir ta famille. Donc, moi, je vais chercher chez toi ce que toi, tu vas chercher chez moi. Moi, je vais te donner la parnassa, je vais te payer, et toi, tu vas t'occuper. Toi, tu vas t'occuper de mon fils. Son fils, c'est celui qui va devenir plus tard l'Admour Emtsei. Alors, cet élève-là dit, Rabbi, je viens m'occuper de votre fils, mais comment, qu'est-ce que je vais lui enseigner? C'est pas n'importe quoi de s'occuper d'un fils de Rabbi. Alors, regarde ce que tu vas expliquer. Tu vas commencer à lui enseigner Aleph Bet. Tu vas lui dire comme ça. C'est quoi un Aleph? Un Aleph, c'est un point en haut, un point en bas, et un trait au milieu. C'est un Aleph. Qu'est-ce que ça représente? L'enfant doit savoir que le Aleph de la Torah, c'est le Yud d'en haut. Le Yud d'en bas est le trait de la foi qui les relie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a Kadosh Baruch Hu en haut. Ça, c'est le Yud d'en haut. Il y a le Juif qui est en bas. Et qu'est-ce qui relie? C'est quoi la barre qui relie les deux? C'est le trait de la, il a dit ici, le trait de la Emouna. Ça, c'est une première version. Il y a une deuxième version qui dit que c'est pas ça ce qu'il a dit. Il a dit, il y a le yud d'en haut, le yud d'en bas. C'est quoi le yud d'en haut, le yud d'en bas? C'est pas Kadosh Baruch Hu et le juif. C'est dans le juif même. Le yud d'en haut, c'est la neshama. Le yud d'en bas, c'est le corps. Et qu'est-ce qui relie la neshama et le corps? C'est la crainte de Dieu. D'accord? C'est un exemple que je voulais vous montrer. Bon, est-ce que je peux dire que j'ai compris ce qu'il a dit ici? Je sais pas si j'ai compris. C'était pour l'admour à MCI. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il voulait montrer ici? Que même la forme graphique d'une lettre veut dire quelque chose. Un Aleph, c'est pas juste on a fait un Aleph comme ça. Si on a fait le Aleph comme ça, c'est qu'il y a un message. C'est quoi le message? C'est qu'il y a un Yud, d'accord? Le Yud, ça représente le point. C'est ce qu'il y a de plus petit. Ce qu'il y a de plus petit, c'est-à-dire ce qu'il y a de le concentré. C'est l'extrait, c'est l'essence. L'essence d'en haut, l'essence d'en bas, qu'est-ce qui relie les deux? Donc, on est en train de parler maintenant ici de Marassé. L'action qu'il y a dans une lettre, c'est quoi? Tu l'as dit tout à l'heure. C'est quoi l'action qu'il y a dans la lettre?
La forme.
L'aspect, c'est la forme de la lettre. La forme de la lettre, c'est la manière comment la lettre prend forme. On dit bien comment la lettre prend forme. On va développer ce que ça veut dire. Veotiot adibur, nerkakot, be'evel, ve'kol, amitralek, lechavbet, chalakim, shonim, zemize, betsuratam, shehi, avarat, ou mifta, achavbet, otiot, bechol, lachon. Donc, on a dit que, il va expliquer comme ça. Dans toutes les choses du monde, on peut toujours séparer action, parole, pensée. On va commencer par l'action. C'est quoi l'action? C'est la forme de la lettre. Par exemple, la forme du Aleph, la forme du Bet. D'accord? C'est quoi la parole? La parole, c'est la manière de former une phrase. Par exemple, je vais dire Aleph, Bet, Gimel. Combien de lettres on a dans l'Aleph Bet? 22. D'accord? Il y a 22 plus les sophites. Donc, ça fait 22. Et on dit que ces 22 lettres-là, chaque lettre a une manière comment elle est prononcée. Donc ça, là, on parle plus de l'action. On n'est plus dans l'action. Dans le Maasé, là, on est dans la parole. Vous allez voir tout de suite où je vais en arriver. Parce qu'il te dit comme ça, il te dit quand tu réfléchis, quelle est la différence qu'il y a entre les langues? Quelle est la différence qu'il y a entre l'hébreu, entre le français, entre le latin, entre l'allemand? Quelle est la différence qu'il y a entre toutes ces langues-là? C'est
la musique, le son.
D'accord? En vérité, non, c'est plus fort ce qu'il va dire ici. En vérité, les intonations, c'est les mêmes partout. T'as des A, des O, des I, c'est les mêmes intonations partout. Qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est comment tu vas associer les intonations. D'accord? Oui, mais ça veut dire les intonations, la capacité de l'homme de faire une intonation. Il n'y a pas 10 000 capacités. D'accord? On est dans les gammes de do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. C'est tout. Tu peux pas aller plus loin que ça.
Pour la musique.
D'accord? Donc on est bloqué, on est limité. Donc qu'est-ce qui va faire la différence entre une langue et une autre? C'est quoi? C'est pas que un va t'inventer des nouvelles consonnes, des nouvelles voyelles. Non, ça n'existe pas. On peut pas inventer. C'est quoi une langue? Une langue, c'est une association de consonnes et de voyelles qui va former des mots. Ça, c'est la parole. D'accord? L'action, c'est quoi? C'est les formes de lettres. Que la forme de lettres a un message. Chaque lettre a un message. On pourrait donner beaucoup. Vous rappelez, je sais pas, pour les plus anciens, ils se rappellent certainement ce qu'on avait expliqué sur la lettre He. Quelle est la forme graphique de la lettre He? Vous vous rappelez? Lettre He, d'accord? Elle est comme ça. Comme ça. Ici, il y a un trou. Et après, il y a un Yud en bas. Vous vous rappelez, on a expliqué c'est quoi? Qui se rappelle?
La porte d'en haut, la porte d'en bas?
Alors, on avait expliqué que c'était dans Guéret Hatshuva, ça. On avait expliqué, il y a le côté droit du « et », selon la Kabbalah, représente la pensée. D'accord? La pensée qui fait toute la structure d'un homme. Parce que la pensée, ça accompagne toujours un homme. Le côté haut, ça représente quoi? Non, excusez-moi, c'est le contraire. Le côté haut, c'est la pensée. Puisque le haut, c'est quoi? C'est la pensée d'un homme qui l'accompagne toujours. Ce qui va vers le bas ici, c'est quoi? C'est la parole, d'accord? Et ici, c'est quoi? On a un espace et on a l'action. C'est quoi l'enseignement que te dit la Kabbalah? C'est pour te montrer que même si tu as pensé quelque chose et que tu en as parlé, même si tu as parlé quelque chose et que tu en as pensé, avant de passer à l'action, il faut toujours avoir un laps de temps dans lequel tu réfléchis. Voilà pourquoi il y a un trou dans le hé entre le haut et le bas, entre pensée-parole, action. Il y a toujours un trou pour te dire, avant de passer à l'action, tu dois réfléchir. C'est-à-dire que le hé, c'est la lettre de Kadosh Baruch Hu. Alors que dans le chet, c'est quoi le chet? Qu'est-ce qu'on a dans le chet? C'est comme le hé, sauf que c'est quoi la différence? C'est continuité. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de laps de temps de réflexion entre la pensée, la parole et l'action. C'est-à-dire que tout de suite, on a agi. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Chet, d'accord, en hébreu, ça veut dire quoi? La faute. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai pris la forme graphique de la lettre. C'est-à-dire que même la forme graphique de la lettre, le maassé de la lettre a un message. C'est le maassé. Le dibour, c'est quoi? Le dibour, c'est les consonnes qui vont former des lettres. Je voudrais arriver jusqu'à la fin, comme ça, on peut, comme ça, on va aller au bout du raisonnement. Vechen, pareil. Rag seulement, pardon. Non, où j'en suis? Veotiot. Veotiot à Marshava, em ganken bechol lachon shadam mechashev tevot, veotiot à lachon shen trafbet levad. Il n'y aura jamais plus que 22 lettres. Seulement, qu'est-ce qui va faire la différence entre une phrase et une autre phrase? C'est la manière comment on va combiner, d'accord? On va combiner des mots. Ça veut dire qu'en vérité, c'est quoi la force de la parole? La force de la parole, c'est quoi un mot? Un mot, c'est une combinaison de plusieurs lettres. C'est quoi une lettre? Une lettre, c'est une combinaison de plusieurs consonnes. D'accord? Donc, une lettre, c'est plusieurs consonnes. Un mot, c'est plusieurs lettres. D'accord? Et une phrase, c'est plusieurs mots. Ça veut dire qu'en vérité, c'est quoi la parole? La parole, c'est une combinaison de plusieurs choses. C'est ça, la force de la parole. Et alors? Il dit, veotiot amarchava, em gamken bechol lachon shadam mechashev tevot, veotiot alachon, she'en trafbet levad, she'er, rak shebemarchava, yesh gimel mine prinotinot, je vais rapidement dans les mots, she'are, כשרואה בספר תורה תמונת האותיות המצטיירות במחשבתו ואין נקראת בחינת עשייה שבמחשבה. וכן, כאשר שומע אותיות הדיבור, הן נרשבות במחשבתו ומערר בהן, וזהו נקרא בחינת דיבור שבמחשבה, בחינת יצירה. ואותיות המחשבה לבדה, בחינת ערעור אותיות הדיבור, נקרא מחשבה שבמחשבה, בחינת בריאה. וואלה, j'ai expliqué ce qu'il dit ici. Très intéressant ce qu'il dit ici. La question, je vais vous poser une question. Jacques, je vais vous poser une question. Est-ce que quand vous réfléchissez toujours avec des mots? Ah, du coup, il...
Tu réfléchis avec quoi?
Non, c'est la pensée.
Avec des images.
Non, oui, mais la pensée, c'est traduit par des mots.
Non, bah ouais.
Qu'on, on va faire un tour de table. Qu'est-ce que tu en penses?
Une image. Ou une association, peut-être.
Avec des actions.
Ça peut être avec des mots aussi?
Une association, peut-être des deux. Ouais.
Ça dépend.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Avec des mots aussi. Avec des images, des mots.
Pas toujours avec des mots? Des fois avec des mots, quand même. Alors, c'est quoi la différence? Alors, comment on peut expliquer cette différence?
Avec des... Quand je dis des mots, c'est pour bien comprendre la chose.
Est-ce que ça vous arrive, alors je vais vous poser une autre question maintenant, Jacques, je vous pose encore une autre question. Est-ce que ça vous arrive de ne pas imaginer, de ne pas voir des images, de ne pas voir ni les mots, ni les images, mais de voir devant soi la forme des lettres? De s'imaginer la forme des lettres.
Quand tu récites quelque chose, oui.
Quand tu quoi?
Quand tu récites
je répète,
quelque
écoutez bien la question, c'est une question, très, c'est une question que pose la Kabbalah. Est-ce que ça t'arrive, quand tu t'imagines une phrase, d'accord, de voir ni les mots dans ta tête, d'accord, ni de voir l'image que ça représente, mais de voir les lettres en face de toi, comme si tu vois les, comme si tu vois les grands lettres. Est-ce que ça vous arrive?
Joseph, quand tu
récites, réfléchissez bien.
Quand tu récites quelque chose, ça, ça te déroule comme un cadavre.
Deux fois.
On voit les chiffres, mais pas les lettres.
Par exemple, tu t'imagines que tu veux dire à quelqu'un, je vais vous donner un exemple concret, hein. Tu t'imagines que tu veux dire à quelqu'un, je t'aime, et dans ta tête, tu vois le J, le E, l'espace, le T, l'apostrophe, tu vois le que, tu vois les mots, tu vois les formes. Le Zohar explique que les trois types de pensée existent. Et ce qu'il va expliquer le Zohar, c'est que plus on avance, et plus ça va montrer que l'action est à un stade avancé. J'explique. Quand on est au premier stade de la pensée, la pensée est seulement en mode image. C'est-à-dire que tu n'arrives même pas à donner des mots. Vous savez, des fois, on pense à des choses. Tu n'arrives même pas à donner des mots. On te dit, mais qu'est-ce que tu sens? Raconte-moi ce que tu sens. Tu n'arrives pas. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pensée n'a pas encore été concrétisée. Elle est encore complètement en mode pensée. Elle est en image. Et en général, la majorité des pensées qu'on a sont en mode image. C'est-à-dire que on te demande, raconte-moi ce que tu penses. Tu as du mal. Il faut réfléchir. Je dois réfléchir. Comment t'expliquer? Ça veut dire quoi? Mais pourtant, j'étais déjà en train de réfléchir. Ça veut dire que la pensée au plus bas niveau, enfin au plus haut niveau en vérité, avant qu'elle se concrétise, elle est en mode image. Après, quand tu avances un petit peu, quand tu décides de prendre cette pensée et de la développer dans des mots pour la raconter à quelqu'un, enfin tu réfléchis, comment je vais expliquer ça? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas structurer ta pensée dans des mots. Là, ça veut dire quoi? Écoutez bien ce que dit le Zohar. Le Zohar dit, ça veut dire que ta pensée, maintenant, tu es en train de la concrétiser. Tu es en train d'aller vers le monde de l'action. Et donc, ta pensée n'est plus une image. T'as réussi à lui donner des mots. T'as réussi à la concrétiser, t'as réussi à l'attraper dans des mots. C'est déjà très bien. Mais encore, tu l'as attrapé dans des mots, mais tu vois pas encore les mots. Te dit le Zohar, la manière la plus forte quand tu peux dire que la pensée est descendue à fond, c'est quand non seulement tu as l'image, non seulement tu as formé des mots, mais tu vois l'image des mots dans ta tête. C'est-à-dire, tu vois comme si c'était écrit en grand les mots. Tu vois les mots. Par exemple, tu veux dire à quelqu'un, je t'aime, tu vois le J, le E, tu le vois, tu vois la lettre. Tu vois en toute lumière. Là, te dit le Zohar, si, le jour où ça t'arrivera, ça veut dire que ta pensée s'est concrétisée. Pourquoi il nous explique ça ici?
Mais que ça veut dire, c'est concrétisé?
Ça veut dire que tu es allé dans le monde de l'action. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses qu'on est abstraits. Et on a beaucoup de pensées abstraites. Il y a des choses qu'on décide de faire descendre dans le monde de l'action, et il y a des choses qui restent abstraites. Comment tu fais descendre? Numéro 1, tu passes du stade image au stade mot.
Ouais, mais c'est le troisième truc.
D'accord? Numéro 2, tu passes du stade mot au stade où carrément tu vois les mots danser devant toi. Ça veut dire que tu vas passer au stade dans lequel tu vois la chose devant toi. Tu la vois vivante. Tu vois comme si qu'elle est en train de se passer maintenant. Ça veut dire que tu sens la chose se concrétiser. Pourquoi j'explique ça?
Les lettres du machin.
D'accord? Parce qu'il veut expliquer ici quelque chose de très important. Il te dit qu'on comprend quelque chose. On comprend, écoutez bien ce qu'on va dire ici, c'est très important. Rappelez-vous, on a dit tout à l'heure qu'on vit dans le monde de l'action. Ben, ce qu'il va t'expliquer, c'est qu'on comprend quelque chose seulement quand on arrive à le faire descendre. Quand on arrive à l'expliquer. Ça veut dire que des fois, on croit qu'on a compris des choses, mais quand on te demande de le répéter, j'essaie de le répéter à mon fils, j'essaie de le répéter à ma femme, j'arrive pas. Ça veut dire que j'arrive pas à le faire descendre. Il est dans mon cerveau, je vois l'image, j'ai compris, dans ma tête c'est clair. Mais j'arrive pas à le faire descendre, j'arrive pas à le faire descendre dans le monde de l'action. Étant donné que nous les hommes, nous sommes pas dans le monde de la pensée, nous sommes dans le monde de l'action, si j'arrive pas à faire descendre quelque chose dans le mode de l'action, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je l'ai pas réellement compris.
Si j'arrive pas à l'expliquer.
Si j'arrive pas à l'expliquer, ça veut dire que je l'ai pas réellement compris. Ça veut dire que je dois encore réfléchir pour bien le comprendre. Et quand je l'aurai bien compris, j'arriverai à l'expliquer. Pourquoi? Encore une fois, tout ça pourquoi? Parce qu'on vit dans le monde de l'action. Et puisqu'on vit dans le monde de l'action, l'indicateur pour savoir si j'ai réellement compris quelque chose, c'est est-ce que j'arrive à le faire descendre dans le monde de l'action. Alors quand quelqu'un te dit j'ai beaucoup d'idées, etc., mais j'arrive pas à les passer dans le monde de l'action, si tu n'arrives pas à les passer, c'est que ces idées sont abstraites. Toi-même, tu les as pas compris. Toi-même, tu les vis pas. Et là, il nous a montré l'exemple comment même dans des mots, j'ai réfléchi à une idée. Si l'idée n'est qu'une image dans ma tête, ça veut dire que c'est très très loin, c'est pas du tout de l'action, c'est pas du tout de concret. Si dans ma tête, je m'imagine des mots, je m'imagine comment je la répète à quelqu'un, c'est déjà pas mal. Là, c'est-à-dire que j'ai déjà commencé à le faire descendre. Si non seulement je l'imagine comme des mots, mais là, je l'imagine carrément, j'imagine la scène se passer devant moi, c'est-à-dire je vois la concrétisation de la chose devant moi en train de se passer, là, c'est-à-dire que je suis dans la bonne voie. Ça veut dire que jamais il doit arriver une situation que quelqu'un me demande de lui expliquer quelque chose et j'arrive pas. Si j'arrive pas, c'est que quoi? C'est qu'en vérité, moi, je l'ai pas compris. Tout ça pourquoi? Là, on a une illustration concrète du fait qu'on vit dans le monde de l'action et que le seul indicateur pour savoir si on a compris quelque chose est si on a agi ou pas. Pas si on l'a compris. Donc avec ça, on conclut cette lettre. Je pense qu'on pourrait résumer en un mot cette lettre. Dans cette lettre, on a parlé de l'importance de l'action. Surtout dans les deux derniers cours, de l'importance de l'action. Et comment le seul indicateur pour savoir si on a réellement compris quelque chose, c'est si on a agi. Si on arrive à le développer dans le mode de l'action. Est-ce que c'est clair? On repasse encore une couche ou c'est bon? Ah, il y a du blanc là. Quand il y a un blanc, on dit que ça veut dire deux choses.
On essaie de le faire descendre. Non, là.
Mais en fait, on voit.
Faut faire l'action sans comprendre ou en fin de compte, il faut faire l'action et la comprendre.
Imagine-toi, d'accord.
Si tu la comprends. En fin de compte, si tu fais l'action et t'as pas compris, c'est que t'as encore au premier niveau.
Très bien.
Alors, on a dit, il faut le faire quand même l'action. On n'en faut pas comprendre.
Justement.
Alors maintenant, tu me dis à la fin, il faut la comprendre pour avoir l'action.
Non. Je vais vous montrer que même dans la pensée, ce que je vais vous montrer, c'est que même dans la pensée. L'indicateur pour savoir si j'ai réellement compris, c'est si j'arrive à l'amener à l'action. Le plus important, c'est d'aller vers l'action. Maintenant, il faut réfléchir. Bien sûr. Maintenant, il faut chercher à comprendre quand même. Est-ce que ça t'arrive des fois d'avoir des idées? Et qu'une idée que tu n'arrives pas à mettre dans des mots?
Oui.
T'as une idée, d'accord? T'as un truc qui te passe par la tête. Bon, des choses comme ça, des idées qui passent. Mais tu n'arrives pas à la mettre dans des mots. D'accord? C'est une idée, comme ça, c'est une image que tu vois comme ça. C'est quelque chose qui est vague. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, tant que tu n'as pas réussi à la descendre dans des mots, tant que tu n'as pas réussi à la descendre dans quelque chose de concret, ça veut dire qu'en vérité, dans ta tête, c'est abstrait. Et ça va partir. Ça tiendra pas dans ta tête. Si tu veux que ça tienne, il faut la descendre le plus rapidement possible dans des mots. Ça veut dire essayer de réfléchir dans des mots, de lui donner des mots, de lui donner une définition, et de la faire descendre.
Quand tu travailles, tu penses pas comme ça.
D'accord? On est obligé?
Quand tu travailles, tu penses pas comme ça.
Bien sûr, tu penses comme ça.
Tu vois pas les lettres qui s'affichent devant toi.
Quand tu travailles, bien sûr. Regarde, quand tu travailles, qu'est-ce qu'on dit à une personne qui a une idée? Qu'est-ce qu'on lui dit? Prends le stylo et écris. Pourquoi on lui demande de l'écrire? Écoute bien ce que j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu ne restes pas dans ton cerveau? Pourquoi tu dois prendre un stylo et écrire? C'est ce qu'on dit, non, dans le business. On dit quand tu as une idée, prends un stylo et écris. Pourquoi? Parce que tant que c'est dans ta tête, tant que tu n'as pas mis des mots, ça va s'envoler. C'est une image. Une image, elle s'envole. Il faut donner des mots. Parce qu'on vit dans le monde de l'action. Et les mots, ce n'est pas suffisant. Après, il faut encore faire un travail d'imagination pour imaginer le produit fini. Pour te dire que même dans la pensée, il faut chercher l'action qu'il y a dans la pensée. À plus forte raison, que comme on l'a dit tout à l'heure pour répondre à ta question, que dès le départ, nous on doit chercher l'action. Mais ce qu'il veut te montrer ici, c'est que même dans la pensée, il faut chercher l'action qu'il y a dans la pensée. parce qu'on vit dans le monde de, on vit dans le monde de l'action. D'accord? Donc avec ça, on finit cette lettre pour expliquer l'importance de l'action, l'importance que même l'étude, c'est parce qu'elle amène à l'action. Et avec ça, on comprend la grandeur des maîtres comme le Harizal par rapport à Moshe Rabbeinu. Maintenant, on comprend. C'est quoi la différence entre l'Arizal et Moshe Rabbeinu? Si on résume, on reviendra à ce qu'on expliquait au premier cours. C'est que Moshe Rabbeinu, c'est quoi? Moshe Rabbeinu, il a vu, mais il n'a pas compris. Il n'est pas entré dans la compréhension. Donc Moshe Rabbeinu, il n'a pas fini le travail, il a que commencé le travail. Quand est-ce qu'on finit le travail? C'est quand on arrive à faire descendre dans l'action, c'est-à-dire on arrive à comprendre la chose et dire voilà, je le saisis, je peux te faire un dessin. Là, on peut dire t'as compris. L'enseignement concret qu'on a tiré d'aujourd'hui, c'est qu'il faut toujours tirer vers le concret. Quand on a une pensée, il faut toujours se dire qu'est-ce qui va sortir de ça aujourd'hui maintenant. Même une pensée. Est-ce que je réussis maintenant à mettre cette pensée? Est-ce que je réussis à trouver des mots? Mais des fois, tu t'endors. Avant de dormir, t'as une pensée. Combien d'idées on a comme ça qui s'envolent et tu oublies, qu'après tu... C'est rien, c'est du bluff, ça. Ça s'envole. Pourquoi? Parce qu'on vit dans le monde de l'action. Dans le monde de l'action, ce qui n'est pas concrétisé ne vaut rien. On raconte...
Pourtant, des fois, on a une idée, on l'oublie, et après, le temps après, on s'en rappelle.
Oui, mais pourtant, si, on l'a pas écrit. Si tu la développes pas, oui, pourtant, elle restera abstraite.
Ouais, d'accord, mais elle est revenue, donc on n'a pas oublié.
Bien sûr, c'est...
Ça s'en va et ça revient.
Très rare.
Tu penses à des trucs que tu dis, ah, c'est super, quand
ça commence bien. Ouais, c'est plus super. Tu dis, mince, je me rappelle pas pourquoi c'était super.
Non, c'était bien, mais tu veux essayer de reconstruire ce que tu avais pensé, tu retrouveras jamais.
Bien sûr, parce que tu avais une image.
C'est aussi bien inspiré que la première idée.
Comme les rêves.
Exactement ce que j'allais dire, comme les rêves. Voilà, les rêves. Est-ce que tu arrives à répéter un rêve? Très compliqué de répéter un rêve.
On se rappelle pas ce rêve.
Parce qu'en général, un rêve... Alors, je vais vous expliquer. Alors, non, par contre... Alors, voilà, je vais donner un exemple, regarde. Il y a plusieurs rêves, regarde. Tu as des rêves dans lesquels... La même chose qu'on a dit maintenant avec les mots, peut-être vous allez mieux comprendre avec les rêves. Regarde, on a trois catégories de rêves. Tu as des rêves dans lesquels tu vois une image. Tu te réveilles, t'as une image. Ça part. T'as des rêves dans lesquels tu vois les mots. T'entends des gens qui te parlent, des mots, des phrases. Ça veut dire que ton cerveau a créé des phrases. Ça, c'est déjà un rêve qui est plus réel. T'as des rêves dans lesquels c'est un cauchemar. Ça veut dire que c'est pas seulement que tu vois des phrases. Tu vois la scène se passer devant toi. Du style, t'as l'impression que t'es tombé de la montagne. Tu t'es en train de tomber de la montagne. Et ben, plus le rêve était concret, et plus tu t'en rappelles, t'es capable de le répéter jusqu'au dernier mot. Quand c'est une image, tu dis, ouais, une image. Quand c'est des mots, t'es déjà plus capable de répéter. Quand c'était quelque chose de concret que t'as vécu, tu l'as vu, t'as senti, t'es capable de le répéter, de te dire comment tu te sentais. Pourquoi? Parce qu'on vit dans le monde concret, dans le monde du réel. Et dans le monde du réel, ce qu'on a réussi à faire descendre jusqu'au stade du réel, c'est ce qui va tenir. Ce qui n'est pas descendu au stade du réel, ça tiendra pas. C'est valable pour la pensée, pour la parole, pour l'action. Même la pensée. Ce que j'ai pas réussi à faire descendre au stade de l'action, ça tiendra pas. Ça va partir. Il faut tout faire descendre au stade de l'action, au stade du réel.
Mais est-ce que...
Non, j'ai pas dit de les comprendre. Je dis, est-ce que t'es capable de répéter?
Oui.
T'es capable de répéter un rêve?
Certains rêves, oui.
Moi, sincèrement, ça m'est
arrivé. On est capable de répéter seulement les rêves qu'on a vécu, que tu l'as senti.
Moi, sincèrement, ça m'est arrivé de rêver. Ouais. En me réveillant en pleine nuit.
Alors, je vous rassure, vous rêvez toutes les nuits.
Oui, je sais. C'est vrai.
Alors, une
question. Je prends un stylo et je le...
Sérieux? Vous écrivez?
Ah, sérieux. Et ça m'arrive même. Ah
non, mais il a descendu de l'action.
Attends, excusez-moi. Et je vais au petit coin. Et après, je reprends la suite du rêve.
Ah oui, ça arrive, c'est si tu veux la suite du rêve, tu t'endors.
Mais vous l'avez vu, je l'ai appris. C'est vrai. Elle me dit, quelqu'un qui ne voit pas.
Il est où le bouquin?
Après, des fois, c'est des trucs.
Quelqu'un?
Vraiment bon, qui ne tiennent pas la route.
C'est tout par l'imagination.
Tu vois, l'action, tu la mets.
C'est tout par l'imagination.
Et le lendemain,
tout par l'imagination.
Tout.
Et l'imagination.
Elle a écrit.
J'ai l'imagination remplace, bien sûr.
Un café, là.
Maintenant, on comprend maintenant pourquoi.
Qu'est-ce qu'il y a?
Bah, si quelqu'un il arrive à cette action-là, c'est qu'il a, il a vu, il a eu la pensée, la parole, il l'a écrit, il a fait l'action.
Ouais.
On comprend maintenant s'il a fait les 613 vraiment.
Oui.
C'est acquis.
Exactement. Alors que s'il les a fait que en pensée.
Malgré que ça peut s'effacer.
Oui.
Après, il peut revenir après effacer mais tout ça.
Une fois que tu l'as fait, une fois que tu as réussi à concrétiser quelque chose, ça y est, tu l'as fait. Combien de projets on a des fois? Une fois que tu as fait une fois la chose, Mazal Tov, tu l'as fait. Quand c'est un projet, c'est un projet. C'est de l'abstrait, ça. On est dans le monde du concret, dans le monde du réel. Il faut passer en concret. Et ça, c'est la grande différence entre Moshe Rabbeinu et le Harizal. C'est que Moshe Rabbeinu, son rôle, c'était pas d'amener les choses en concret. Son rôle, c'était de voir les choses, d'avoir des informations. Comme on a expliqué dans le premier cours. D'accord? On en est dans le troisième. Comme on a expliqué dans le premier cours, son rôle, c'était pas d'amener dans le concret. Le rôle des maîtres qu'ils ont suivis, les maîtres de la Gemara, les maîtres de la Kabbalah, leur rôle, c'était de concrétiser les informations qu'on a reçues. Et aujourd'hui, c'est ça notre rôle aujourd'hui, de concrétiser. Notre rôle, c'est d'amener Mashiach ici-bas sur Terre, pas en tant qu'idée abstraite. C'est d'amener des choses concrètes, réelles. Le Rabbi dit, la seule manière pour nous d'amener Mashiach, c'est de le concrétiser un maximum. Aujourd'hui, on n'a plus le temps d'avoir des projets, de les mettre dans un placard dans la tête. On n'a plus le temps.
Il y avait une rachat sur Achatassim et Ferem.
Oui.
Bon, on dit pour Achatassim, ça veut dire que vraiment qu'ils ont développé pas seulement leur avoir.
Bien sûr.
Il faut l'avoir. Avoir, l'avoir vraiment. Ouais. Là. Alors, ça veut dire qu'il y a quand même.
Qu'il y a un bien sûr. On n'a plus le temps aujourd'hui. Il a fait, bien sûr, mais ce n'était pas son rôle. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il y avait des choses qu'il ne comprenait pas. Ce n'est pas son rôle. Aujourd'hui, le Rabbi dit on n'a plus le temps de prendre des projets et de les mettre dans les armoires et de dire on attend, le jour, un jour on l'utilisera. Il n'y a plus le temps. Aujourd'hui, il faut concrétiser. Tant qu'on n'aura pas concrétisé, Moshe ne peut pas venir.
Pas de projet.
Ça, c'est.
Pas de chef de projet non plus, rien du tout.
Je ne veux pas dire que j'y connais rien. Mais il y a des gens, à part les Loubavitch, qui ne pensent pas comme vous.
Pourquoi ? Sur ça ? Non, ça, c'est pour ça que tout le monde est d'accord. L'action, tout le monde est d'accord.
Il y en a, non.
Ah, c'est moi, pas j'ai... non, il y a des gens qui moi,
action,
il n'y a pas des mouvements.
Je vais prendre un exemple qui n'a peut-être rien à voir avec,
pas après.
Avec le cours qu'on a fait, là. J'ai essayé de comprendre. Moi, j'ai des amis qui sont à 90%, 95% pas religieux du tout.
Bon.
Voire beaucoup d'HP qui sont pratiquement athées.
Oui.
Mais dans leur fond, il y a toujours une pensée juive. Quelque chose de juif.
Bon. Mais c'est pas du concret.
Bon, ça, c'est un autre problème.
Bah, c'est ça le problème.
Pas du concret. Non, mais disons que quand on parle de ça.
Quand vous allez les pousser à mettre une mezouza à la maison chez lui, comme ça, c'est du concret. Le peu de concret, ça peut faire ce que.
Non, il est hors de question qu'ils
mettent. Mille heures de parole ne le font pas.
Il est hors de question qu'ils mettent une mezouza chez eux. Mais par contre, je vais vous donner un exemple. À Pessah.
Vous allez les inviter au resto cacher ?
Non, 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 pas du tout.
Pourquoi pas ?
Chez eux, ils vont manger une matzah avec du petit salé.
Il a mangé la matzah, il a fait de l'action. On est dans le monde de l'action. Il faut signer le contrat, après on discute.
Bon, voilà. Bon, ça c'est un autre. Non, mais. Alors, j'en revenais, moi j'ai vécu en Tunisie jusqu'à 15 ans. Je parle du monde de l'action. Parce que bon, où je suis au syndicat de livres, c'est politique et tout. Et donc, on sait très très bien que tous les grands dirigeants de gauche étaient juifs.
Mais c'est vrai.
Et en Union soviétique.
Avec un bandit là, ouais.
Voilà, en Union soviétique, 95% des dirigeants étaient juifs.
Ouais,
et ils avaient tous une pensée juive. Et j'en reviens à dire que en Tunisie, on avait des rabbins, des sages. J'ai vécu jusqu'à 15 ans, donc je vivais dans un milieu religieux. Mm-hmm. Ils étaient contre le fait qu'Israël, on acquiert Israël par les armes.
C'était des débats politiques de l'époque,
c'est encore. Oui, non, mais c'est vrai. Alors que tandis que ces gens de gauche, ils étaient pour l'action physique.
Oui, mais la question, c'est quelle. La question, c'est quelle action.
C'est-à-dire qu'eux, ils disaient que reste Israël, on allait d'abord sur un plateau, et ça allait venir, ça. Voilà, il fallait pas qu'on.
Le problème, bat, c'est que le problème, je parle dans un débat politique, mais le problème, c'est que ceux qui ont acquis Eretz Israël par les armes, le seul problème, c'est des grands tzadikim, sur ça, ils ont fait des grandes mitzvot.
Ah,
le seul problème qu'ils ont, c'est que eux, ils ont dit, le plus important, c'est la terre d'Israël, tout le reste, on met de côté. Ils ont dit, maintenant, il y a une seule mitzvah, c'est Eretz Israël, tout le reste, on met de côté. Et tous les gens qui venaient en Israël, il y avait des gens religieux qui venaient en Israël. On faisait tout pour leur faire quitter la religion et leur dire, vous gardez que la mitzvah d'Eretz Israël. Il y a des millions de personnes qui ont quitté la Torah comme ça. C'est ça l'erreur. C'est pour ça que les rabbins étaient contre jusqu'aujourd'hui encore sur ça.
Non, je crois que l'erreur.
Maintenant, c'est un fait établi maintenant. Mais.
De quoi ?
C'est pas une question de ça. Fait
non, l'erreur.
Israël, c'est un S.
Mais le problème. Bien sûr, c'est un S.
C'est un S.
Le problème, c'est que l'establishment à l'époque, c'était quoi l'idée qu'il a donnée au peuple ? C'était l'essentiel, c'est d'avoir la terre. Le reste, c'est pas grave.
Oui, c'est vrai.
C'est ça le problème.
Non, je pense pas que les gens.
Mais vous avez raison. Je comprends ce qu'il veut dire. Lui, ce qui. Non, mais non, tu peux pas. Non, non, t'as pas le droit. Il y a 613 millions, tu peux tous les faire.
Moi, non, mais d'accord. Mais... il faut pas faire. S'il y a une. Il faut pas riposter.
Mais je comprends votre point de vue. Votre point de vue qui dit que, en vérité, ces gens-là, ils ont eu du bon dans le fait que eux, ils ont dit, il y a un problème. Il faut prendre. Il faut attraper le taureau par les cornes. Donc, il y a un problème. Et ben, il faut foncer. Il faut agir. Voilà. À force de penser, ça viendra jamais.
Le problème qu'il y a eu aussi, c'est que toute notre vie, on a été bercé par ça. On l'a répété chaque année, l'an prochain à Jérusalem.
Ouais.
Ces gens-là aussi, ils ont eu l'impression qu'en allant là-bas, en s'installant en Israël, même si avant, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, c'était religieux.
Non, même en France.
C'est, même en France, si tu veux. Une fois qu'ils sont arrivés là-bas, ça y est, on a, ça y est,
notre on est arrivé au but.
Non, mais c'est ça.
Mais on est arrivé au but. Bah oui, maintenant.
Non, mais il y a des gens qui ont pensé comme ça.
Oui, non, mais
il y a des gens qui pensent comme ça.
Au paradis.
Non, mais il y a des gens qui pensent comme ça. Tu les vois bien, de toute façon.
C'est 72.
Il y a beaucoup de Français qui pensent comme ça. Quand les mecs, ils sont, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Par exemple, des gens qui sont en Israël, qui travaillent encore en France, toi, ils te jugent comme bon, moi je suis là-bas, ça y est, moi
je suis arrivé au but.
Voilà, moi j'ai fait mon travail. Non, mais si, mais ne dis pas non, il y en a beaucoup. Et moi j'en ai croisé il y a pas longtemps, où c'est presque ils te reprochent, quoi, d'être toi d'être ici. Et le type, il a oublié qu'il vient, enfin toutes les semaines, il vient ici pour travailler, quoi. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il attend pour nous rejoindre et tout. Moi, c'est bon, ça veut pas dire qu'il quitte la, c'est pas des gens qui quittent la religion, mais quelque part, ça peut être interprété. Ça a été interprété comme ça par des gens.
Ouais.
C'est évident. C'est évident, en Tunisie, les types, c'est vrai, Nissimizvili et tout, il fallait là-bas, il fallait, ça y est, mais ils ont été là-bas, le travail est terminé.
Bon, en tout cas, nous, ce qu'on doit retenir, c'est, non, mais c'est un bon point, ce que vous avez dit. Qu'en vérité, c'est des gens, c'était des jeunes, surtout des gens qui ont dit, il faut aller vers l'avant, il faut aller vers l'action. Vous avez raison, c'est un bon point, ce que vous dites. C'est ça, l'enseignement de cette lettre.
On a dit.
Quoi? Non, ça veut dire qu'on n'a plus le temps à perdre aujourd'hui à laisser des projets au stade de la réflexion. Le slogan de Vetlovitch, c'est de la réflexion à l'action.
Il ne faut pas oublier qu'il y a un temps de.
On n'a plus de temps à perdre.
Un temps de réflexion pour arriver à l'action.
Il m'a dit, puisqu'à la fin des temps, tous les juifs doivent aller en Israël.
Autant y aller maintenant.
On va tous maintenant en Israël, comme ça, Hachem, ils seront obligés. On agit nous, on va être tous en Israël. Une fois qu'on sera en Israël, maintenant, Machin,
c'est obligé. C'est la condition.
C'est une chanson, c'est comme ça.
Le problème, c'est que si c'est pour aller en Israël, d'accord. Si c'est pour aller en Israël, pour ne pas avoir de Parnassa, pour ne pas avoir et pour être dégoûté des rêves d'Israël, c'est pas.
Pourquoi être dégoûté des rêves d'Israël?
Parce que l'Alia, à mon avis, c'est ce que dit le Pele Yoetz. Le Yoetz il conseille à ses élèves comme ça. L'Alia, il a dit, il faut la faire ou très jeune ou très vieux. Pas au milieu.
Vous savez, c'est dur, Israël. Moi, sincèrement, je ne suis pas religieux, mais si elle fait jeune, elle a été à la
vie. Ou très jeune, ça veut dire quand tu démarres ta vie. Ou vieux, après que tu as marié tes enfants. Bon, tu peux partir. À la retraite.
Pourquoi il y a autant de
fois? Ouais, mais moi, ça m'a choqué.
Je pense que c'est la plus
réponse. Israël, qui était ouvert. Pour mes enfants, je ne dis pas, mais moi, personnellement, ça m'a choqué. Je vous la fais.
Ça sent les grillades.
Il faut commencer quand t'es jeune.
Mais tout le reste,
voilà. C'est le conseil de les playouts.
Dans ce que tu veux.